Bonsoir à tous, donc pour cette nouvelle édition du Libre Team Speak. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler la date d'aujourd'hui, l'heure à laquelle nous parlons et heure à laquelle et date à laquelle Monsieur Eric Fioril va présenter sa conférence. Nous sommes le 11 septembre 2011, donc 10 ans après les fameux attentats, dont il sera peut-être question à un moment ou à un autre. Difficile en ce jour d'occulter la chose. En tout cas, nous recevons Eric Fioril, je disais, qui est le chantre et le défenseur d'un principe qui s'appelle la démosophie, donc dont lui-même vous rappellera sans doute l'étymologie. Je me permets de le faire rapidement. Démos, le peuple, comme dans démocratie, et sophie, donc la sagesse du peuple, donc la sagesse des peuples. C'est ce que défend Éric Fioril, qui s'attaque partout particulièrement, qui s'attache à définir et à combattre le nouvel ordre mondial, ce qu'on appelle communément le nouvel ordre mondial. Je vais donc lui laisser la parole pour cette conférence. Bonsoir à lui et bonsoir à tous.
Donc là, je commence.
Allez-y.
Alors, d'abord pour commencer, bon, je suis pas du tout habitué à ce genre de prestations et je dois dire que toute votre équipe est assez formidable. J'étais assez impressionné tant par le professionnalisme comme par la courtoisie, l'élégance de procédé. Moi, je vous dis bravo à toute l'équipe et puis j'espère que ça va, vous allez développer ça, certainement avec des moyens techniques, de l'audience et c'est un beau travail que vous faites. Alors, pour parler un petit peu tout de suite de cette déclaration, en titre, vous avez marqué un nouveau président pour les Français. Et ça donne immédiatement l'image d'un politicien de plus qui voudrait être président et qui a choisi ce titre pour se présenter et se faire connaître et se lancer. Et c'est pas du tout mon cas. Donc, je vais tout de suite un petit peu parler de cette proclamation que j'ai faite et pourquoi. Très peu de temps après, j'ai reçu énormément de mails, mais parmi ceux-là, des amis proches. Et un ami proche qui m'envoie un mail en m'écrivant « Monsieur le Président », ça m'a tellement interloqué que j'ai pris mon téléphone immédiatement, je l'ai appelé en lui disant « Écoute, je sais pas qu'est-ce qui prend de m'écrire comme ça ?» Et puis il me dit bah, « Écoute, la façon de t'écrire ça, c'est exactement comme si j'avais écrit « Merde à Sarkozy ». Et ça, c'est une réflexion qu'après, j'ai entendu énormément de gens me redire de la même façon, d'une façon ou d'une autre, mais toujours la même chose, à savoir, finalement, on préfère un Pékin connu qui parle le même langage que nous et qui dit ce que nous, on pense, mais que personne ne dit tout haut, qu'un Sarkozy qui, en rien, ne semble nous représenter. Alors, maintenant, pourquoi j'ai fait cette déclaration? Parce que, justement, on a, depuis très très longtemps, maintenant, beaucoup de gens qui dénoncent. Et puis là, durant les 4 à 5 derniers mois, il y a pratiquement une quarantaine de nouveaux partis qui se sont lancés, donc des jeunes politiciens ambitieux qui voudraient bien, se faire un nom à leur tour. Et on est reparti pour une histoire politique et ça finit pas. Ça ne finira jamais et il faut mettre... Alors... Tout ce monde-là parle, dénonce, se présente, essaye de faire valoir ses ambitions. Alors j'ai voulu un petit peu provoquer comme un choc. J'ai voulu un petit peu dire, ben voilà, moi je suis à 5 000 km de la France, je n'ai aucune intention de me présenter du tout. En revanche, on a un mouvement qui s'appelle la démosophie, qui commence à prendre une ampleur assez importante dans pas mal de pays, plus qu'en national. Le Pérou, le Canada, l'Argentine, un petit peu l'Espagne, un peu moins, enfin peu importe, mais un certain nombre de pays où le concept démosophique permet une façon d'aborder les choses qui soit complètement à l'envers de tout ce qui est en train de se faire, de tout ce qui est politique et politicien. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu plus un peu plus tard. Pour me présenter, je fais partie de ce petit groupe. On va dire qu'on a une dizaine peut-être sur toute la planète, qui avons commencé il y a environ une vingtaine d'années à chercher ce qu'était ce nouvel ordre mondial, à essayer de découvrir, parce que c'est très caché, et puis à essayer de comprendre. Je ne connais pas exactement quelle a été la motivation première des autres pour commencer à chercher. La mienne, c'était de constater très souvent des réactions des dirigeants qui n'étaient pas du tout en rapport avec la logique. Donc des décisions, des lois, etc., qui ne me semblaient en rien logiques de quelqu'un qui représente son peuple, qui doit faire des lois pour son peuple, etc. Donc je trouvais qu'il y avait une dissonance assez importante qui m'a alerté à me dire c'est pas logique ce genre de décision en réponse à ce problème. Ça n'a pas de sens. Donc il y a une autre motivation. Et c'est en allant chercher cette autre motivation que des gens comme William Guy Carr, qui ont écrit des livres qui ne sont pas très répandus, mais quand on cherche un peu, à ce moment-là, c'est sur ces gens-là qu'on tombe et qu'on commence à lire. Et puis, dans les années 80-85, on dévore ce genre de bouquins et on cherche dans le même genre. Mais tout ça nous mène aux années 90-95 avec les revues, avec les livres, les bibliothèques qui nous apportent le savoir, la recherche qui n'est pas encore complète. Et puis arrivent les années 90 et Internet. Internet, c'est un changement énorme pour l'humanité. À partir d'Internet, déjà, on se découvre nous, entre nous. On découvre qu'on est quelques-uns, 7, 8, peut-être 10. Dans des langues différentes, mais tous à avoir découvert un petit peu les mêmes choses. Et là-dessus, on voit des gens comme l'un des tout premiers, qui est Jim Tucker, aux États-Unis, qui avait déjà découvert le club Bilderberg avant moi, bien avant moi, et le suivait, etc. Il a associé ensuite un autre journaliste, qui est russe, mais vivait en Espagne, qui est Daniel Estouline. Et ensuite, ils ont sorti un livre, enfin c'est Daniel Estouline qui a sorti un livre qui s'appelle Le Club Bilderberg, ou un nom complet, je crois, qui a rapport avec ça, parce qu'en fait, moi je connais les livres sous une langue et en français, des fois la traduction du titre n'est pas tout à fait la même. Enfin, c'est le Club Bilderberg. Ensuite, des gens comme David Icke, qui lui aussi avait investigué énormément le sujet. S'est orienté surtout sur les conférences, c'est-à-dire qu'en fait, quand on connaît et qu'on découvre des choses comme celle-là, elles sont assez monstrueuses, hein. À cette antenne et durant ce petit temps qu'on va passer ensemble, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des choses absolument monstrueuses. Et David Hack, donc, lui, a commencé à faire des conférences, etc. Chacun veut avertir le public. Alors on en parle aux copains, on en parle à la famille, on parle aux amis, mais c'est pas assez. Donc on veut se faire connaître et on veut faire connaître tout ce qui est en train de se passer et pouvoir parler et communiquer au plus de gens possible, disant attention, regarde ce qui se passe réellement, voilà ce que tu savais pas. Et on va dire que les quelques personnes qui sont attachées à ça, par chance, étaient réparties dans différents pays. Donc moi en France, David Icke en Angleterre, Jim Tucker aux États-Unis, Benjamin Fulford au Japon, et sûrement il y en a peut-être quelques autres que je ne connais pas. Mais en tous les cas, on a commencé donc à pouvoir avoir des contacts grâce à Internet et à compléter nos informations. Mais ensuite, aussi, en les transmettant nous-mêmes et en les mettant en ligne, on a commencé à avoir des réponses. C'est-à-dire beaucoup de gens qui n'avaient pas ces informations les ont pris, les ont investiguées, ont découvert encore plus de choses que nous. Et petit à petit, tout ça s'est additionné parce qu'on est en train de rentrer, et c'est ce que représente la démosophie. Bien sûr, je ne peux pas résumer un livre de 300 pages comme ça en quelques minutes, mais globalement, l'idée philosophique, c'est de dire que toute notre civilisation humaine, depuis 10 000 ans, depuis l'homme des cavernes même, s'est établie sur les premières bases animales, les premières bases instinctives. Or, la base animale, c'est la loi du plus fort. Et c'est comme ça que l'homme s'est imposé sur la femme. C'est comme ça que l'homme de 40 ans est plus fort que le vieillard, plus fort que l'enfant, donc c'est le chef de famille. Et puis, toute la société s'est basée là-dessus. La religion s'en est mêlée en établissant des règles basées toujours sur ce même droit. De là, à partir des religions, les lois ont commencé à s'établir et à se créer, donc à travers la Grèce, Rome, etc. Mais toujours sur ce même concept. Et aujourd'hui, on arrive en 2000 avec toujours tout un passé basé sur ces mêmes règles. La loi du plus fort. Et la démosophie, c'est l'opposé à la démocratie, qui est encore une fois une règle de peuple et autorité, donc encore une fois la force. Là, on oppose la loi de la raison. La loi de la raison, c'est-à-dire la loi de la sagesse, on s'aperçoit à travers les mouvements qu'il y a actuellement dans le monde entier qu'effectivement, Les peuples s'éveillent et Internet joue un rôle énorme là-dedans. Les gens qui veulent bien un petit peu abandonner la télé, ouvrir Internet et regarder les informations commencent à découvrir beaucoup de choses. Si l'affaire du 11 septembre s'était déroulée à une époque où n'existait pas Internet, aujourd'hui, on aurait peut-être 10% de la population qui remettrait en cause l'information officielle. Alors que grâce à Internet, c'est 90% maintenant de la planète qui n'est pas dupe. Donc, on ne va pas entrer dans le détail pour parler du 11 septembre. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder sur les grands mensonges médiatiques qu'on n'en finirait pas. Donc, l'intérêt, c'est ça. C'est qu'on a actuellement non pas quelques individus qui commencent à s'éveiller, mais une multitude des peuples entiers et dans le monde entier. Il n'y a plus de limites de frontières, tout a été aboli par Internet. Donc l'intelligence commune se développe non seulement à titre individuel, mais aussi à niveau global, au niveau de toute l'humanité entière. Donc là, on est à ce tournant où les gens qui dirigent ce qu'on appelle communément le nouvel ordre mondial, ces gens sont de l'ancienne génération, sont de cette génération. De l'ancienne culture humaine qui établit la loi du plus fort, ils l'ont acquis par l'argent. Par l'argent, ils ont monté tout un programme qui les amène aujourd'hui à vouloir établir une dictature au niveau mondial sur l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, les peuples s'éveillent et s'opposent à cela. Alors on est un petit peu sur la tranche, on est un petit peu sur la bascule. Est-ce qu'on va aller d'un côté? Est-ce qu'eux vont réussir ou pas? Là-dessus, parmi tous ces gens qui ont cherché à comprendre ce qui se passait, moi, j'ai particulièrement fouillé ce qui m'intéressait le plus, fouillé le pourquoi, c'est-à-dire quel est l'outil majeur qu'ils utilisent et qui leur permet ça. Comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler des gouvernements? Comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler des hommes? Et dans toutes mes recherches, donc, je suis remonté au Sabbatéen, on peut aller beaucoup plus haut, mais je suis remonté au moins au Sabbatéen parce que c'est là où réellement tout se déclenche dans l'histoire. Et je vais parler quelques instants de ça. Il se trouve que en 1600 et quelques, il y a un personnage qui s'appelle Shabbatai Tsevi, qui lance une nouvelle religion interprétée à partir de la Kabbale, plus particulièrement du livre des splendeurs, le Zohar, et qui l'interprète à l'envers de sa véritable signification. C'est-à-dire qu'il prend la Kabbale, qui est un livre qu'on peut interpréter de pas mal de façons, et il l'interprète totalement à l'inverse. C'est-à-dire que dès le départ, l'invention de Dieu est une erreur, c'était Satan qui dominait. Partant d'un truc aussi fou, il réussit à convaincre beaucoup de gens par un moyen très simple. L'être humain vit si on prend n'importe quel homme, et si on est honnête, on reconnaît que, surtout durant notre jeunesse, le ventre et le bas-ventre sont ce qui nous commande beaucoup. Donc, à une époque où les religions sont extrêmement strictes et où des couples vivaient une vie entière sans jamais se voir nus, où les règles étaient extrêmement strictes, lui a offert une religion qui offrait orgie, échangisme, etc. Alors ça, dans un monde musulman dominant, beaucoup de juifs, c'était pas très bien vu. Donc il a été adulé par certains, par tous ceux qui étaient attirés par ça, et il a été bien sûr excommunié par les juifs, il a été rejeté, etc. Ensuite, on lui a proposé de se faire couper la tête ou de devenir musulman, donc il est devenu musulman. Et puis son mouvement a continué ensuite à travers un autre homme qui s'appelle Jacob Frank, qui a créé, donc on en parle sous forme de franquisme. Et le franquisme, c'est exactement cette même religion, donc, qui continue de se développer, mais cette fois-ci en s'orientant vers la Hongrie, l'Autriche, etc. Et on arrive en 1700, un peu plus tard que 1700, avec la fille de Jacob Frank, qui, on ne le sait pas 300 ans après, on n'a pas de photos, mais selon tous les témoignages, était exceptionnellement belle. Et il l'offrait bien sûr en orgie durant les cérémonies entre guillemets religieuses, selon leur concept. Et elle connaît un monsieur qui a beaucoup de moyens, qui s'appelle Rothschild. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, on est en 1700 et quelques, le Rothschild dispose déjà de moyens considérables, mais en plus, il y a un autre homme qui intervient ici, qui s'appelle Adam Weishaupt, qui lui a écrit, offert des écrits entre le prince de Machiavel et la manipulation jésuitique. Les services secrets de l'Église et la manipulation jésuitique des sectes. Rothschild associe tout ça ensemble et crée ce qu'on appelle les Illuminati maintenant. Donc, avec ce concept des Illuminati, un principe initial, et ça, c'est pas, tout ça est écrit, on peut chercher sur mon blog, j'ai mis toutes les références nécessaires. Ce sont des documents saisis par la police bavaroise à l'époque, conservés dans les archives nationales, etc. Donc ce sont des choses complètement avérées. On a trouvé des documents clairs expliquant comment gérer les cérémonies, comment il est facile un père de famille qu'on a mis dans une cérémonie où on l'a fait coucher avec plusieurs femmes, etc. Il est facile ensuite d'exercer du chantage sur lui, etc. Donc le principe est là. Le principe est, tout homme qui est rentré là-dedans, il est tenu. Et une fois qu'on le tient, on pourra être sûr de ça, qu'il va conserver le secret et l'amener ensuite à n'importe quel poste et le manipuler comme on voudra. Donc le principe corruptif se met en place à travers ce concept-là et à travers donc un but. Et le but, c'est établir des républiques. Ça, c'est ce qui a été déterminé par les études qu'ils ont faites à cette époque-là. Tous ces documents sont écrits et dans les documents, qu'on a retrouvé encore récemment sur Internet, certains ont été publiés, on les voit en ligne, il est bien clairement écrit comment fomenter et installer une république en fomentant une révolution, celle des États-Unis donc en 1787, celle en France en 1789, à travers les sectes des francs-maçons, que les Illuminati pénètrent par ce système de corruption. Donc ensuite, on passe tout un siècle dans lequel ce progrès Illuminati pénètre tous les types de sectes, aussi bien celles de Chine, celles d'Inde, que toutes les sectes européennes, les rosicruciens, les francs-maçons, et il y en a tellement de centaines que on peut pas toutes les citer. Et lorsque ce schéma se met parfaitement en place, on déclenche ensuite la Première Guerre mondiale qui va permettre de transformer pas mal de pays qui étaient sous régime monarchique en république. La Deuxième Guerre mondiale achève l'histoire et on arrive aux années 50 où là on crée le Club Bilderberg. Le Club Bilderberg devient l'expression visible de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et là on est dans l'histoire moderne maintenant. Alors, le Club Bilderberg a repris les mêmes concepts, c'est-à-dire que les mêmes documents qui ont été écrits dans ces années 1700 ont été réécrits une nouvelle fois, ça a été découvert au début du siècle, sous une forme plus moderne déjà, c'est ce qu'on appelle les protocoles de Sion, et ensuite réécrits à nouveau, mais de façon très simplifiée pour qu'ils soient accessibles à des gens d'un niveau d'intelligence nettement inférieur. Ce sont les documents que tout le monde peut, je pense, connaît maintenant, qui s'appellent armes silencieuses pour guerre tranquille. Ça, c'est un document très réduit de tout le schéma qui a été mis en place, mais modernisé, c'est-à-dire adapté au fonctionnement économique général. Donc, on a pris le pouvoir à travers les républiques sur l'essentiel de tous les dirigeants. On fait en sorte que tous les dirigeants sortent de nos sectes. Donc, 99% de tous les dirigeants sortent des sectes, francs-maçons ou autres, peu importe. Et maintenant, ce qu'il nous fallait, c'est bloquer et contrôler tout le système économique pour parvenir à un chaos général qui permettra ensuite l'installation d'une dictature mondiale. Alors, ce document, Armes silencieuses pour guerre tranquille, il est destiné aux présidents, aux ministres, de façon à leur donner les indications de ce qu'ils doivent faire dans leur pays au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, à tous les niveaux, pour favoriser les plans généraux. Et tout ça, c'est ce qui a amené la situation actuelle où on trouve sur Internet une multitude de plans de génocide, etc. C'est en marche et c'est là où je disais tout à l'heure qu'on est sur une bascule. Alors, dans tout cela, le concept actuel de la démosophie est de s'opposer à tout ce système politicien. Parce que la base, ce qui permet qu'il puisse contrôler un gouvernement, c'est un système, ça s'appelle la République. Si on examine parfaitement tous les rouages et tout le montage général du concept de la République, c'est un concept qui fait qu'on peut mettre n'importe qui comme président, c'est toujours le club Bilderberg qui contrôle le pays. On peut changer une institution, on peut changer une autre, c'est toujours le club Bilderberg qui contrôle le pays, car il contrôle l'accession à tous les postes clés. Et si on veut un changement, il faut un vrai changement. Il faut complètement changer le système. Or, lorsqu'on voit actuellement, j'en ai écouté, excusez-moi, une quantité, une multitude de tous ces petits politiciens ambitieux qui arrivent soi-disant avec des nouveaux programmes, etc., ça va toujours, en fait, ce sont que des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est je veux être le président de la République. Pour eux, c'est ils ont été conditionnés par l'école, ils ont été conditionnés toute leur vie à penser que c'est la plus haute fonction, que c'est un prestige, que ça fonde. En plus, les images qu'ils ont en permanence à la télévision, c'est les grosses voitures, les limousines, les escortes, etc. Tout ça les fait rêver et ils veulent être président de la République. Et donc, pour y arriver, ils vont dire n'importe quoi, promettre n'importe quoi, utiliser la crise, utiliser le nouvel ordre mondial. Mais à l'arrivée, il n'y a que deux catégories de gens. Il y a ceux qui savent réellement comment ça se passe, c'est-à-dire des gens un petit peu plus sérieux, qui ont étudié, qui ont analysé, qui ont compris les rouages. Et si ceux-là ne dénoncent pas la République, c'est que ça leur convient très bien comme ça. Donc, ils vont favoriser l'installation du nouvel ordre mondial. Et il y a les autres qui n'ont même pas compris, et ceux-là sont incompétents, tout simplement. Donc, ils ne sont pas plus intéressants que les premiers. Alors, devant cette tristesse de choix et devant cette multitude qu'ils sont, une multitude qui, à la finale, va seulement diviser encore plus les gens et favoriser les gros. Et les gros bonnets, ils sont déjà en place et ils attendent que ça, et ceux-là sont déjà complètement dans ce nouvel ordre mondial. Donc, on risque de se retrouver en 2012 avec une prolongation de ce monde ancien, de la loi du plus fort, mais qui va arriver maintenant à son apogée, c'est-à-dire l'établissement d'une dictature mondiale. Là, en plus, on est sous un système où le concept orwellien est complètement en place. C'est la novlangue. Quand on parle de nouvel ordre mondial, moi, c'est un terme que j'aimais employer il y a 20 ans ou 30 ans, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire un nouvel ordre mondial disant si un inventeur découvre une chose fantastique pour l'humanité, eh ben, on ne doit pas la cacher et la réserver à un pays, on doit faire profiter toute l'humanité. Donc, un bon ordre mondial, ce serait d'avoir une organisation mondiale où toutes les inventions ouvertes à tous, où cet ordre mondial permettrait d'éviter qu'un pays puisse faire la guerre à un autre, d'éviter le surarmement permanent et la compétition permanente à développer des armes, des bombes, etc. Donc, dans ce sens-là, le nouvel ordre mondial serait quelque chose de positif. Et puis aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de négatif parce on l'associe à ces gens et ils emploient ce mot. De la même façon, il y a beaucoup d'autres termes comme ça qui sont utilisés à l'envers de leur sens réel. Alors, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça, mais effectivement, on serait aujourd'hui dans une période où on devrait pouvoir le faire. Il n'est pas normal qu'en Argentine, ça fait maintenant presque 20 ans, les autobus, les véhicules utilisent des véhicules moitié eau, moitié essence. Et dans le reste du monde, non. Il n'est pas normal qu'au Japon, maintenant, pratiquement tout le pays est en train d'utiliser les moteurs à énergie libre, alors que dans tout le reste du monde entier, c'est toujours interdit. Il n'est pas normal qu'il y ait des milliers et des milliers de brevets de moteurs à eau, de moteurs à eau de mer, de moteurs à plasma, de moteurs, une multitude de moteurs à énergie libre qui fonctionnent, qui sont en fonctionnement certains depuis plus de 15 ans, et toujours interdits. Et dans le même temps, les mêmes qui l'interdisent prétendent qu'il y a un problème de pollution. Alors, tout ça, c'est un monde complètement délétère. On a tous des enfants, ou en tous les cas un futur. Et si on veut qu'ils aient une chance de vivre sur une planète saine, si on veut qu'ils ne soient pas des esclaves et les esclaves survivants d'un génocide qui va sûrement se mettre en marche, on a intérêt à faire quelque chose. Alors, là-dessus, moi j'ai pris cette position de président qui est une position une position où tous ceux qui ont de l'humour ont bien compris que j'étais le Pékin inconnu qui représente un petit peu mieux les Français qu'un Sarkozy. Et à côté de cela, il se crée des équipes présidentielles selon un certain concept que les gens eux-mêmes mettent en place. Sur Facebook, on a monté pas mal de groupes. Donc, il y a un groupe espagnol, anglais, italien, etc. Là, on en monte un en japonais maintenant. Mais il y a plusieurs groupes. Et dans ces groupes, les gens discutent, traitent de débats, débattent sur tous les thèmes majeurs de la société. Et on établit un type de gouvernement. Alors, dans la démosophie, il y a un type de gouvernement destiné à remplacer la République qui interdirait toute forme de corruption ou de concussion. Et qui permet également un système de gestion générale du pays contrôlé complètement par les citoyens, mais pas l'anarchie, pas n'importe comment. Donc tout le système en détail, c'est pas le moment de l'expliquer, mais ce système existe. Donc beaucoup de gens qui ont lu le livre et connaissent ce système. Sur ces groupes maintenant sur Facebook, les ont améliorés encore et ont déterminé un gouvernement transitoire qui va participer aux élections en 2012. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, eux se sont organisés et ont déterminé un gouvernement de 300 citoyens, 300 personnes. Sur ces 300 personnes, 40 vont être à peu près, c'est une proportion normale. Plus disponibles que les autres, plus organisateurs que les autres, donc vont participer à l'organisation des 300 en général. Et puis, parce que la loi républicaine actuelle l'oblige, bah, ils tireront au sort un d'entre eux ou ils choisiront un qui a un peu plus de facilité d'élocution, peu importe. Comme on commence maintenant à faire des réunions un petit peu dans toute la France, de ces réunions, on va commencer à essayer d'organiser des conférences à partir de novembre. Donc, on arrive à de plus en plus à multiplier par ces petits pôles de plus en plus de monde et sensibiliser à ce qui se passe réellement et à la possibilité qu'au lieu de tous ces politiciens qui se présentent, il puisse y avoir un groupe qui ne soit pas de la politique, qui soit contre la politique et qui remette vraiment les choses à zéro. Donc, cette équipe est en train de se constituer, les portes sont grandes ouvertes à tout le monde, n'importe qui peut rentrer sur le site web, n'importe qui peut rentrer sur la page Facebook, participer au débat, participer à ce qu'il veut et rentrer complètement dans le système. Donc c'est ouvert en grand et en permanence, et ça le sera toujours. On va essayer d'arriver jusqu'en 2012, gagner ces élections. Et ensuite, ce gouvernement se chargera de la chose immédiate qui est à faire, à savoir il y a trois points majeurs. Il y en a un qui est immédiatement cesser la crise économique parce que c'est une fausse crise et on la cesse du jour au lendemain. C'est totalement sûr. Donc ça, c'est rien. Donc la faire cesser immédiatement pour que déjà les gens retrouvent un peu de sérénité. Ensuite, la deuxième chose, c'est de lancer un grand audit sur la situation réelle de l'État parce qu'actuellement, personne ne la connaît vraiment. Tous les chiffres sont trafiqués, toutes les statistiques sont trafiquées, personne ne sait ce qui se passe réellement. Et il y a une multitude de choses qui sont secrètes, là où disparaît beaucoup, là où disparaît énormément d'argent, que les gens ignorent, tels que des programmes spatiaux dont les gens n'ont même pas entendu parler, qui se font, tels que des villes souterraines de la taille de Paris qui existent à 10 km sous terre. Il y a une multitude de choses comme ça que les gens ne savent pas. Donc, faire un audit, c'est découvrir toutes les vérités, les mettre à plat et permettre à tout le peuple français de savoir ce qui se passe réellement. Donc, ce gouvernement, il va faire trois choses. Il va cesser immédiatement la crise économique, la première des choses. Ensuite, lancer cet audit et dans le même temps, lancer une constitution. Une constitution faite par tout le monde. Une constitution où on a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire avec toute facilité. Là, on est en train de le faire à quelques personnes sur Internet. Demain, on peut faire exactement la même chose à un niveau plus important. Si en plus on est au gouvernement, on a plus de facilité pour monter des programmes Internet et faire ce qu'on veut. Donc, lancer ce genre d'opération aujourd'hui et y faire participer toute la population d'un pays, c'est un véritable jeu. Ça ne pose aucune difficulté technique. Et donc, d'ouvrir la porte à ce que tous les Français participent à être constitution, le type de gouvernement qu'ils souhaitent. Comment, mais avec aussi des émissions de télévision qui leur permettent d'avoir les informations complètes Et au fur et à mesure de ces informations, ils pourront choisir le type de gouvernement qu'ils souhaitent. Voilà l'objet, voilà la volonté du groupe des mosophytes, et c'est ce qui est en train de se lancer actuellement en France. On le fait aussi dans d'autres pays, et puis on va essayer de le développer dans le monde entier, parce qu'on ne peut pas laisser le monde aller vers un génocide tel qu'il était prévu. Je profite de cette pour dénoncer encore une saloperie qui est en train de se faire, à savoir que les cinq pays qui sont le plus contrôlés par le Club Bilderberg, donc puisque ce sont les pays dans lesquels ils ont vraiment réussi à mettre leur propre agent comme dirigeant du pays, donc Sarkozy en France, mais aussi Canada, USA, Angleterre, Italie. Ces cinq pays avaient planifié l'attaque de l'Iran, là, très prochainement, pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, avec tout un programme derrière, etc. Tout ça a été dénoncé par Benjamin Fulford. Il y a un groupe chinois-japonais qui s'appelle la White Dragon Society qui l'a dénoncé aussi, qui a prononcé récemment des menaces personnelles sur les familles des principaux instigateurs de ces plans, donc les gens de la trilatérale, du CFR et de Bilderberg. De tous les côtés, beaucoup de gens sont en train de travailler pour essayer d'empêcher que ça se produise. Et là, malheureusement, j'ai encore entendu récemment Sarkozy qui commence à préparer le public français en disant que l'Iran est une menace, enfin, toutes les conneries. Et j'invite tous les Français qui souhaitent à écouter le président de l'Iran. Ils seront étonnés d'écouter un homme qui est peut-être un des trois ou quatre rares vrais dirigeants d'un pays. Personne sensée qui parle de manière juste, qui dit les choses justes, qui analyse correctement les choses. Et je connais personnellement des gens qui vivent en Iran. J'ai une amie d'Iran qui est venue me voir récemment. Elle est stupéfaite de l'image qu'on donne de son pays ailleurs. Ça ne ressemble en rien à son pays. Elle ne connaît rien. Et tout est mensonger. J'en profite pour dire que. Peu de gens le savent, mais en Iran, il y a une colonie d'environ 20 000 juifs qui vivent en Iran. Et ça fait plusieurs fois que l'État d'Israël les a invités à immigrer en Israël, leur a offert énormément d'argent. Or, les juifs d'Iran ne veulent pas quitter l'Iran. Et ils ne veulent pas du tout quitter l'Iran, ils n'y sont pas maltraités du tout, ni quoi que ce soit. Tout est mensonge. Donc, on ne veut pas que cette guerre contre l'Iran commence, on sait à quoi c'est destiné, et donc on ne veut pas de cette guerre, alors on essaye d'empêcher que ça se produise par tous les moyens. Voilà, je crois que là j'ai dit pas mal de choses. Maintenant, s'il y a des questions ou...
Je vais commencer par vous remercier de cette intervention qui a duré donc environ 35 à 35 minutes, un peu plus peut-être. Alors vous avez dit beaucoup de choses sur le nouvel ordre mondial, sur le groupe Bilderberg, etc. Il y aurait énormément de questions à vous poser. Je vous demanderais simplement peut-être pour commencer de dire en quoi estimez-vous que Sarkozy est directement lié au Bilderberg? Alors, je sais que par exemple, quelqu'un comme Thierry Messant avait fait un travail pour montrer que Sarkozy était en gros un agent assimilé de la CIA. Alors, moi, je suis pas naïf, hein, je sais que tous ces mythes sont entremêlés, mais avez-vous la preuve directe de la domination du Bilderberg à la fois sur la France et sur le monde?
Alors, demander des preuves directes dans ce domaine-là, vous savez bien que ça n'existe pas. En revanche, il y a beaucoup de journalistes sérieux qui ont investigué complètement tout cela, qui ont démonté tous les rouages. Donc, il suffit de lire le livre, par exemple, le Club Bilderberg de Daniel Estouline, et là, il y a toutes les réponses. Concernant Sarkozy lui-même, de son côté, Thierry Messant a fait une étude qui est assez complète, sérieuse, j'en ai vérifié énormément de points et ils sont réels. Donc les filiations, les relations avec tous ces gens-là, elles sont prouvées, elles sont difficiles à cacher. Sa formation aux USA, elle n'est pas cachée non plus. De mon côté, en faisant les recherches, il y a un livre qui est une encyclopédie de tous les juifs de Salonique. qui a été établi par un juif qui voulait absolument retracer toutes les. Et moi, j'ai retrouvé aussi là-dedans donc la famille de Sarkozy, qui était dont l'ancêtre est l'un de ceux qui est parti prêcher cette nouvelle religion, le sabbatéisme, on va l'appeler, avec Jacob Frank. Donc, si on veut trouver aussi un lien à travers cette secte, on le trouve aussi de ce côté-là. Donc, si vous voulez, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Après, vous avez des constats naturels à faire. Le constat naturel, c'est regardez ce que fait Sarkozy. Regardez, comment pouvez-vous imaginer une seconde qu'un homme qui soit représentant des Français n'ose pas mettre un pied dehors en France? Or, il vit dans la peur, il est incapable de sortir en France sans avoir 1 500 ou 2 000 gendarmes pour assurer sa sécurité. Un vrai président des Français, il pourrait sortir en toute tranquillité, acheter son pain. Mais Sarkozy, il n'ose pas mettre un pied dehors. Ensuite, quand vous regardez les types de décisions prises, quand le 1er juillet, il signe un décret pour autoriser la police à tirer à balles réelles sur les manifestants, j'arrive pas à imaginer que le représentant d'un peuple puisse signer ce genre de décret. Lorsque le peuple français refuse le traité européen, il passe par un biais derrière, et il repasse le traité, et on est maintenant sous le traité de Lisbonne qui autorise la peine de mort. Les Français, en aucun cas, ne pourraient fonctionner selon ce schéma. Lorsqu'il décide en Côte d'Ivoire d'installer son copain, là encore, si vous faites tous les liens, c'est le FMI, c'est le Bilderberg et c'est la formation Rothschild et Rockefeller. Donc, si vous voulez, il y a tellement et tellement et tellement que c'est un petit peu difficile de nier qu'il n'agit pas pour les intérêts des Français ni du peuple. La crise économique, il peut l'arrêter du jour au lendemain, mais non, il la prolonge parce que c'est les intérêts de Rothschild. Alors, il y a tellement et tellement d'éléments que j'aurais un petit peu du mal à les poser tous.
Voilà, bah écoutez, bah vous prêchez sans doute des convaincus. Il est évident que ceux qui écoutent, ceux qui sont présents ici et ceux qui écouteront à l'avenir la vidéo sont sans doute relativement hostiles ou même très hostiles à Sarkozy. Ils sont pas, ont bien compris que son action était totalement opposée à ses promesses. Donc là, je pense que vous avez fait une sorte de tableau des erreurs et
Mais, allô, pardon, mais en allant encore plus loin que ça, le seul fait d'avoir abandonné l'armée française entre les mains du club Bilderberg, il me semble que c'est la pire et la meilleure de toutes les démonstrations. Il travaille pour eux et non pas pour les Français. Parce que la seule chose de bien réellement qu'avait fait De Gaulle, c'était ça. De Gaulle est une erreur, un coup de malchance dans le plan général du nouvel ordre mondial, mais il a fait des choses que les autres derrière ont quand même au moins conservées, qui est de conserver l'armée française. Il a fallu Sarkozy pour faire perdre à la France, sa dernière défense.
D'accord, bon, je vais relayer une question de téléphoneur qui pose une question sur le protocole des sages de Sion, dont vous avez parlé d'ailleurs dans votre intervention là juste à l'instant. Alors effectivement, il y a un débat autour de ce texte, bien sûr, savoir est-ce qu'il est authentique ou est-ce qu'il n'est pas authentique. Qu'en dites-vous et pouvez-vous le définir et en quelle mesure lui accordez-vous de l'importance? Merci.
Alors, quand on lit ce texte, c'est un texte tout à fait étrange. Moi, je l'ai lu, mais j'ai aussi lu plusieurs livres de cette époque, et c'est pas facile parce que ce sont des livres écrits en vieux français. Et j'ai lu aussi donc le fameux bouquin qu'on appelle le Testament de Satan, qui est le premier bouquin d'Adam Bishop dont on a retrouvé pas mal d'éléments. Or, si vous lisez bien le protocole de Sion, vous retrouvez exactement la synthèse de ce premier livre qui avait été écrit donc 100, 120, 130 ans avant, qui s'appelle Le Testament de Satan, mêlé du prince de Machiavel. Et la synthèse des deux, ça donne le protocole des Sions. Après, dans toute l'analyse des termes employés, c'est un document qui est extrêmement vicieux, parce que le protocole de Sion des sages de Sion est un document qui utilise énormément le mot goyim, les goy. Or, ce terme-là, les gentils, normalement, c'est le terme qu'emploient les juifs vis-à-vis des non-juifs. Mais si on comprend le terme dans son langage original, c'est aussi le terme qu'emploient les sabbatéistes vis-à-vis des juifs. C'est-à-dire que le terme goy est un terme exclu, tous ceux qui sont exclus de la religion propre. Si ces gens prennent comme base que le véritable judaïsme, c'est celui de Shabbatai Levi, Tsevi, eh bien, tous les juifs, musulmans, chrétiens et chinois et tout ce que vous voulez, nous sommes tous les goyes. Donc, quand ils ont rédigé le protocole des Sions sur ce concept, il n'aurait pas dû être découvert. Et comme il a été découvert, bien sûr, des gens qui ont les moyens comme ceux qu'ils ont, ont réussi à lancer l'image d'un livre qui serait un faux. Mais imaginons même que ce soit un faux. Il n'en reste pas moins que tout y est écrit en détail. Tous les termes sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans le testament de Satan et sont encore les mêmes qu'on retrouve dans le dernier document qu'ils ont émis qui est « Armes silencieuses pour guerre tranquille ». Et on retrouve exactement les mêmes termes et le même concept qui va vers le même but et qui aboutit à la même chose, la prise de pouvoir total sur l'ensemble des peuples.
Très bien. Alors je vais, dans un premier temps, laisser la parole à mon camarade Avanoman qui souhaite poser une question.
Oui, bonsoir Monsieur Fioril. Donc, en fait, vous m'avez fait la transition puisque vous parliez du but recherché, donc, qui est le contrôle total. J'aimerais que vous alliez plus loin dans cette réponse parce que souvent quand on parle de nouvel ordre mondial, c'est la question qu'on nous pose sous forme d'objection d'ailleurs, qui est mais pourquoi ils voudraient faire ça, quel est le but recherché, etc. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer plus, parce que le contrôle total c'est une réponse sans en être une, c'est-à-dire le contrôle total mais pourquoi finalement. Donc est-ce que vous pouvez développer un petit peu les buts de ces gens qui cherchent à organiser le nouvel ordre mondial. Merci.
Effectivement, c'est un sujet particulièrement difficile. Alors, il est bien évident que nous, de l'extérieur, on analyse les choses et on en déduit des choses. Et on a toujours des petites marges d'erreur, etc. On ne peut pas, on n'a pas accès à tout ce qui serait nécessaire pour savoir et avoir des certitudes absolues. On ne peut pas rentrer dans leurs réunions secrètes. Mais quand on voit un petit peu l'ensemble des plans, d'abord, on peut constater le développement du programme spatial. On peut constater la fabrication, puisque maintenant, ils en sont déjà à 2 billions, c'est-à-dire 2 milliards en français, 2 milliards de microchips implantés. Donc, quand on les fabrique comme ça par quantité, c'est bien pour les mettre sur les gens. Ensuite, on peut ajouter les villes souterraines qui sont absolument gigantesques. On peut ajouter tous les moteurs à énergie libre. Donc maintenant, ils ont des trains qui circulent à près de 2000 km/h sous terre, qui sont exclusivement, toute la science est séquestrée par eux depuis les années 60. Tellement d'éléments que de tout ça, on peut tirer certaines conclusions. Ils ont annoncé eux-mêmes sur un monument qu'ils ont fait ériger en Géorgie, aux États-Unis, qui s'appelle Guy Stone, qui est, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient que sur la planète, il n'y ait pas plus de 500 millions d'habitants. Donc, ça, c'est une première annonce. Ensuite, il y a toutes les déclarations qui ont été faites par tous les membres les plus importants du Club Bilderberg, qui ont été faites au hasard de conférences ou ci ou ça. On peut parler de McNamara, on peut parler récemment du spécialiste en génocide là, qu'a embauché Obama, on peut parler de tous ces gens-là, et tous disent la même chose, à savoir qu'il faut que l'humanité soit maximum de 500 millions d'habitants. Donc, on sait qu'ils ont ce désir, on sait qu'ils ont les moyens de les réaliser, et que pour eux-mêmes, ils ont assuré une survie en cas de destruction totale de la planète, puisque ces villes souterraines sont là pour ça. Et là-dessus, il y a ensuite un autre travail qui est en cours, qui est celui de la conservation du génome. Ils sont en train de récupérer les génomes de tous les êtres humains de la planète, de toutes les plantes, de tous les animaux. Ils ont construit des abris absolument extraordinaires pour mettre à l'abri et protéger de tout événement terrestre cet ADN. Et donc, tout cela, ça nous indique quand même que, à la fois, quelque chose se prépare, quelque chose de grand, quelque chose de grave, et leur plan, ils les annoncent quelque part. Ils les annoncent à travers ces livres, le Testament de Satan, les protocoles de Sion, armes silencieuses pour guerre tranquille. Ils les annoncent par une multitude de conférences. Ils les annoncent sous toutes ces formes. Combien de fois Sarkozy a répété le nouvel ordre mondial ? Donc, Ils veulent installer une planète saine, parce qu'en fait, leur but est de revenir à ce qu'ils définissent bien par le nouvel ordre mondial selon leur concept, à savoir eux dirigeant une population de 300 à 400 millions ou 500 millions d'êtres humains implantés par le microchip, donc qu'ils contrôlent par ordinateur, et une planète qui redevient complètement saine et naturelle. Donc leur but, a priori, ça semble d'établir, on va dire, un empire qui sera leur pour toujours, avec une armée d'esclaves. Et à la vérité, il y a beaucoup d'interprétations tellement différentes et possibles de leurs agissements qu'on est obligé, si on veut vraiment approfondir, d'aller jusqu'aux théories de David Icke. Jusqu'aux théories des extraterrestres, et donc on est obligé d'aller vers l'Antiquité, d'aller chercher. Il y a vraiment énormément de choses qu'on nous a cachées, beaucoup de choses sur lesquelles on nous ment. Il y a tellement et tellement de choses que pour l'instant, la vérité est que je n'arrive pas à déterminer leur schéma de fonctionnement intellectuel réellement. Je sais comment ils contrôlent les gens. Par ces sectes, ils les mouillent, on va dire. Tout le monde sait maintenant à peu près que toutes les cérémonies de haut niveau se font avec sacrifice d'enfants, avec viol de petits enfants, etc. Donc quelqu'un qui est passé par là, devant témoin, c'est fini. Pour toute la vie, il est corrompu, il appartient à la secte et il parlera jamais. Donc on sait comment ils contrôlent les gens. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est leur psychologie profonde, quelle est leur mentalité profonde, comment ils pensent à long terme. Imaginez un peu que ces gens ont quand même mis en place un plan il y a plus de 200 ans qui aboutit maintenant. Et en ayant eu bon, des aléas, en ayant eu des choses un petit peu imprévues, mais ils sont quand même en train d'aboutir. Or, qui aujourd'hui, parmi des gens normaux, classiques, sont capables de faire des plans à 200 ou 300 ans? Très peu. Donc ces gens ont quelque chose d'un petit peu particulier à ce niveau-là. Et comprendre leur psychologie n'est pas évident, vraiment pas évident.
Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je vois, il y a quelques questions qui s'additionnent sur le chat, mais on y viendra. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que quand on évoque David Icke, ce que vous avez fait, on peut aller. Ce sont des choses qui vont très très loin et qui peuvent paraître un petit peu délirantes aux gens qui écoutent ça pour la première fois. Alors, moi, une question que j'aimerais vous poser. Vous avez parlé tout à l'heure de Sabbataï Levi qui avait donné son nom donc au sabbatéisme dont vous avez parlé, qui serait finalement une forme de satanisme. Vous avez donc peut-être, enfin, il semble, une vision enfin, biblique, ou peut-être pourriez-vous nous dire un mot de la lecture biblique qui est faite par les gens qui dirigent le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le chiffre 666 qui revient très souvent, la marque de la bête et la récupération en particulier de l'Apocalypse par les dirigeants Nuremberg et d'autres. Voilà. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Est-ce que vous avez compris ma
Oui,
question?
pardon, pardon, j'appuyais sur le mauvais bouton simplement. Oui, non, j'ai constaté tout ça, je le vois, il y a récemment, on m'a fait écouter certains disques qui pourtant proviennent de la plus importante maison de disques américaine, dans lesquels des messages subliminaux sont inscrits. Je n'y croyais pas, on m'a fait écouter comme il faut les écouter, et bon, c'est vrai, il y a ce genre de messages parlant de Satan, parlant de tout ça, les cérémonies. Bon, il est vrai qu'on a vu Bush se mettre à poil, se mettre un petit ruban rose autour du sexe et se coucher dans un cercueil. C'est les cérémonies de Skull and Bones. Il y a tellement et tellement, mais je dirais que ce sont des malades mentaux pour moi. Bon, peut-être c'est moi qui suis bizarre, mais pour moi, c'est des comportements de malades mentaux. Alors, très très difficile de comprendre comment des gens peuvent avoir comme j'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent violer un bébé de 3 ans ou 3 mois. Je suis désolé, pour moi c'est tous ces gens-là, c'est à mettre en asile, quoi. Alors une religion satanique basée sur tous ces concepts et tous ces fonctionnements, je sais que ça existe malheureusement, je suis obligé de le constater, je suis obligé de voir tout ce qui se passe, je suis obligé de le voir qu'ils affichent leurs messages. J'ai vu tous les décortiquages de Lady Gaga, et puis je crois que tout le monde le voit. Ils s'en cachent pas en plus, donc quelque part ils en sont fiers. J'avoue que je suis un petit peu désarçonné face à ce type de religion et je peux pas, j'arrive pas à l'admettre, c'est tout. Donc de toute façon, j'y suis totalement opposé et allergique et je veux pas du monde qu'il nous propose. Donc je veux d'un autre monde. Et cet autre monde, il faut qu'on le crée, puisque pour l'instant, il n'existe pas. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas de véritable analyse sur ce domaine-là et la façon dont ils procèdent fait que personne ne parle chez eux, jamais. Il y a un seul témoignage que j'ai réussi à acquérir, dont j'ai pas pu vérifier complètement la source, donc j'ai même pas assez d'éléments pour valoriser le témoignage lui-même, mais j'ai un seul témoignage d'une personne repentie des Illuminati qui a participé à ce genre de cérémonie et qui fait un témoignage que j'ai découvert. Mais bon, c'est un seul témoignage, donc c'est pas assez. La personne ne s'identifie pas suffisamment. J'ai pas de preuves. Je peux pas aller plus loin. Là, j'ai un blocage. Voilà. Désolé.
Non, bien sûr, on ne vous demande pas d'avoir réponse à toutes les questions et tous les grands problèmes humains que l'on se pose. Alors, avant de passer à une question qui a été posée sur la Troisième Guerre mondiale et qui commencerait avec une attaque de l'Iran, où on vous demande une précision, avant cette question, j'aimerais que vous nous disiez un mot, je pense que c'est une question qui vous a alerté. Vous disiez donc que depuis environ 200 ans, des gens parlent ce plan que l'on peut définir comme satanique, tout ce que vous voulez, extrêmement néfaste en tout cas. Que dites-vous du lien, enfin de ces grandes familles comme la famille Rothschild, la famille Rockefeller, et de ce fait étonnant que des gens au sein d'une même famille poursuivent l'objectif pernicieux de leur père? Avez-vous des réflexions là-dessus, j'imagine.
Nouveau le mauvais bouton, peut-être.
Ça fait partie, pardon, excusez-moi, ça fait partie des choses que j'aurais voulu ne pas parler. Mais d'après tout ce qu'on a découvert, dans la formation, il y a, chez les francs-maçons, par exemple, tout fonctionne toujours sur la même base de renverser les choses. Donc, si vous entrez demain, vous êtes invité à entrer aux francs-maçons, vous allez découvrir des gens un petit peu bizarres dans les manières gestuelles, etc. Mais ça, c'est une forme de conditionnement. Mais vous allez surtout découvrir des gens qui vont vous parler de charité, qui vont vous parler de bien, qui vont, etc. Et il faut commencer à monter dans les degrés et là, vous êtes sélectionné, en fait, pour passer les degrés selon votre capacité à être stupide et ambitieux. C'est la règle absolue. La règle absolue, elle est écrite dans le protocole des Sion. On appelle ça un naïf vaniteux ou un imbécile ambitieux, peu importe. C'est la base à partir de laquelle on sélectionne ceux qui grimpent. Quand on arrive aux échelons les plus hauts, on arrive à l'échelon 33, là, on peut commencer à être sélectionné par les Illuminati. Pour être sélectionné parmi les Illuminati, c'est la secte qui domine toutes les autres, et là, il y a encore des échelons à passer. Parmi les premiers échelons, et vous pouvez le voir avec une multitude de témoignages des jeunes qui s'en sont sortis, et ils sont maintenant heureusement nombreux, qui ont réussi à en sortir, tout commence toujours par le sacrifice de ses propres enfants. C'est-à-dire, les premiers pas à franchir pour entrer dans le haut de gamme, ce qui vous mène au plus haut poste des gouvernements ensuite, le premier pas à franchir, c'est le sacrifice de ses propres enfants. Après, la seconde cérémonie, les secondes étapes pour continuer à grimper dans la hiérarchie, c'est le sacrifice et la consommation de chair humaine. Mais tout ça sont des étapes qui sélectionnent les gens jusqu'au plus haut niveau. Or, il se trouve, et ça les psychiatres savent bien l'expliquer, et moi pas, que des enfants maltraités de cette façon reproduisent les schémas. Et donc, le futur s'assure de cette façon-là. Et ces familles sont des familles gigantesques, comme vous n'imaginez pas. Ces familles, ce ne sont pas les 8 ou 10 frères Rockefeller. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais en réalité, à leur niveau, ces gens ont des harems, sélectionnent les femmes qu'ils vont engrosser et produisent toute une quantité d'héréditaires, je ne sais plus comment dire, enfin, excusez-moi, j'ai plus l'habitude de parler le français depuis tellement longtemps que je ne l'emploie pas. Ces gens produisent des enfants sous d'autres noms et qui se retrouvent ensuite que personne ne sait que c'est leur filiation. Et ça continue comme ça. Or, si vous examinez un petit peu tous les derniers présidents des pays les plus importants, vous allez être étonné du pourcentage d'entre eux qui sont de familles adoptées. Et ça, c'est ça, tout ça, ce sont les faisceaux à partir desquels on peut commencer à établir et à chercher un petit peu comment fonctionnent réellement les choses. Ils sont passés par la même île d'Hawaï, le centre de formation de la CIA. Ils passent, ils ont tous été ou adoptés ou transmis d'une famille à l'autre, etc. On retrouve toujours, toujours les mêmes schémas. Et a priori, c'est de cette façon qu'ils établissent, leur futur permanent.
Merci beaucoup pour cette réponse. Alors là, je vais relayer la question que j'annonçais auparavant, qui a été posée par Marise, à moins qu'elle veuille elle-même poser la question. En tout cas, vous parlez justement du président Ahmadinejad, président iranien, bien sûr, et de son opposition au nouvel ordre mondial. Vous parliez aussi d'une troisième guerre mondiale imminente face à l'Iran, bien que des personnes souhaitent s'y opposer. Donc, à moins que Marie souhaite prendre le micro, je vous demanderai simplement de préciser là-dessus. Et donc, la question précise de Marie, c'était de savoir si Ahmadinejad était, oui ou non, conscient de l'imminence de cette guerre et du danger qu'il risque.
Oui, c'est évident. C'est évident parce que l'Iran a des accords avec la Russie, avec la Chine et avec le Venezuela. Or, ce sont ces pays qui ont dénoncé, ce qui sont les services secrets de ces pays ont participé à la réunion au mois d'août avec 57 autres pays. Donc, il y a 57 services secrets qui sont associés dans la découverte de ce plan, qui ont provoqué une réunion au mois d'août en Suisse. Et forcément, il est bien sûr avisé et préparé à cela. C'est absolument certain. Il faut savoir pour la petite histoire que cette réunion qui s'est passée en Suisse, bien sûr, les pays concernés ont essayé d'y pénétrer. Et je crois que c'est un des fils ou un des frères Rockefeller ou Rothschild qui s'est fait jeter d'une façon assez étrange, assez amusante. Enfin bon, tout ça, c'est la petite histoire. Si on cherche un peu sur Internet, on trouve tout ça. Voilà.
Merci, je vais laisser de nouveau la parole à mon camarade Avanoman.
Oui, donc en fait j'ai tiqué un petit peu lorsqu'a été prononcé le terme Illuminati, parce que j'ai tendance à penser que, mais je suis prêt à changer d'avis, hein, mais j'ai tendance à penser que quand on parle d'Illuminati, c'est pour éviter de parler d'autre chose. Par exemple, je remarque que ceux qui dénoncent le complot Illuminati sur Internet, très souvent, ils parlent jamais des Juifs, par exemple. On a l'impression qu'ils ont un peu une terreur de parler des Juifs ou alors des protestants, parce que pour moi, les familles Rothschild et Rockefeller, c'est un petit peu l'alliance juive d'un côté et protestante de l'autre. Alors, les Illuminati, bon, on sait qu'il y a une réalité derrière, hein, les Illuminés de Bavière, ça existait, mais quels éléments vraiment vous portent à croire que ça existe vraiment et que c'est pas plutôt un contre-feu, justement pour qu'on évite de parler de d'autres groupes qui, eux, existent et puis sont visibles pour peu qu'on veuille bien les voir, quoi.
Alors, c'est une bonne question parce que justement, ça va permettre d'éclairer ce point qui est vital. Il faut comprendre une chose, c'est que tout ça, on l'apprend simplement en lisant leur propre livre de chevet, qui sont donc le Testament de Satan, qui sont les protocoles de Sion, qui sont les bouquins de George Orwell, le Russe là qui avait écrit juste avant George Orwell, qui est encore mieux d'ailleurs. Bon, tout ça est indiqué dedans et ils l'appliquent. Vous le trouvez aussi dans les plans de l'ONU qui ont été piqués discrètement par une secrétaire très haut placée et qui a réussi à les mettre en ligne au Canada. Et ils répètent encore. Donc tout ça, c'est écrit, c'est leur plan. Il y a un travail permanent qui consiste à sans arrêt créer des oppositions et des haines. Donc on nous a mis un ennemi qui était le bolchevique, ensuite on nous a mis un autre ennemi qui était le nazi, ensuite un autre ennemi c'était le communiste, après le terroriste arabe, après maintenant c'est les sionistes, et ils ne cessent de créer des ennemis, mais à tous les niveaux. C'est l'homme contre la femme, c'est le jeune contre le vieux, c'est le flamand contre le wallon, c'est le ouïghour contre le han, etc. etc. Or, c'est là-dedans qu'il ne faut pas tomber. Eux ne sont rien de tout cela. Eux ne sont ni juifs, ni musulmans, ni arabes. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Si vous voulez avoir une véritable image des Illuminati, imaginez-les comme des martiens, imaginez-les, comme dit David Icke, comme des reptiliens. Mais ils n'ont rien à voir avec les juifs. Les juifs les combattent au même titre que les musulmans les combattent. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Or, ils sont en train de nous faire nous tromper d'ennemi parce qu'il y a une désinformation monstrueuse sur Internet. Et ils sont en train de pousser à fond sionisme et le mot sionisme, de façon à ce que si on cherche des sionistes, parmi qui on va les chercher? Parmi les juifs, évidemment. On ne va pas les chercher parmi les musulmans. Donc, ils sont en train de créer, parce que ne vous trompez pas, ils haïssent les juifs. Ils les ont mis en Israël, ils ont tout monté pour pouvoir se servir d'eux pour les anéantir. Il faut surtout pas se tromper d'ennemi. Il y a pas, on n'a pas d'ennemi par race, par religion, ni quoi que ce soit. L'ennemi unique, c'est, et c'est pour ça qu'on emploie le terme Illuminati, mais il est un peu mieux que Nouvel Ordre Mondial et un peu plus exact, mais le véritable terme, si on devait toujours parler de ces gens-là, ce sont les Sabbatéens. Et ça, c'est une religion qui est complètement étrangère à toutes les autres. Et les Juifs, vous avez un type qui est formidable et qui en plus est un scientifique mondialement reconnu, qui est le rabbin Entelman. Vous lisez les écrits du rabbin Entelman, lisez ses articles, il dénonce mais fortement tous les faux, tous les sabbatéens qui se sont infiltrés dans la religion juive et qui montent. Il a dénoncé par exemple l'université juive de New York qui est maintenant aux mains d'un sabbatéiste et il le dénonce et il le combat. Parce qu'ils sont infiltrés dans toutes les religions. Parmi les fameuses familles, on va dire qu'il y a. Là, je ne suis pas moi aussi calé que Fritz Preinmeier. Lui est le plus spécialisé dans ce domaine-là. D'ailleurs, j'ai oublié de le citer, mais c'est un de ceux qui, depuis 20 ans aussi, a travaillé là-dessus. Fritz Preinmeier a déterminé qu'il y avait 13 lignées. Qui remonte à 1650-1700. Et dans ces 13 lignées, il y a aussi une lignée chinoise. Donc, il y a des baptistes, il y a des chinois, il y a des musulmans, il y a tout ce que vous voulez comme religion. Ils sont infiltrés absolument partout. Et au niveau des races, grâce justement à ce système, ils infiltrent aussi toutes les races. Ils vont avoir des enfants noirs, chinois, esquimaux, ce que vous voulez. Et c'est pour ça que on ne s'y retrouve pas facilement, et on ne peut surtout pas les classifier ni par une religion, ni par quoi que ce soit. Voilà.
Je me permets quand même de reprendre la parole, hein, parce que votre réponse m'intéresse et puis ce débat m'intéresse. Quand vous dites les sionistes, on va aller les chercher chez les juifs, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord. Bush, par exemple, c'est un évangéliste chrétien, donc bah, il fait partie des protestants, mais une branche bien particulière, et bah, il n'est pas juif. Et pourtant, c'est un sioniste total, quoi, je pense que personne ne peut le nier.
Parce que.
Voilà. Et juste, je termine. Par exemple, au Maroc, quand on voit certains programmes scolaires, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce programme qui fait qu'il faut enseigner la Shoah à tous les petits Marocains pour qu'ils aient une meilleure vision d'Israël. Bon, bah, on parle quand même de musulmans, là, a priori. L'Arabie Saoudite, pareil. A priori, ils ne sont pas juifs, mais ils sont quand même bien soumis aux États-Unis et par ricochet à Israël aussi. Donc je pense pas que le terme sioniste vise une confession particulière, ça vise plutôt un projet politique. Mais bon, d'après moi, hein, encore une fois, votre thèse ne me gêne pas. Hein.
Non, ma thèse, c'est le terme qui est employé dans le raisonnement. Vous avez raison, bien sûr. Vous trouverez des sionistes un petit peu dans toutes les branches. Parce qu'on emploie le terme comme on emploierait le terme fasciste, comme on emploie un terme pour désigner le mal. Seulement, dans l'imaginaire commun, c'est-à-dire le monsieur tout le monde qui passe dans la rue, aller le chercher en Italie, aller le chercher en Allemagne ou aller le chercher ailleurs. Le premier qui passe dans la rue, pour lui, le sionisme, ça se rapproche des enfants de Sion, donc des judaïsmes, donc des juifs. Et le danger, et c'est pour ça qu'eux poussent sur ce mot, le danger de l'utilisation de ce mot, c'est que ça peut déclencher une chasse aux sorcières. Et c'est ce qu'ils souhaitent et ce que moi je ne veux pas. Donc plutôt que d'employer ce terme-là, qui n'est pas, à mon sens, complètement exact, parce qu'en fait, je crois qu'il s'appelle Herzl. Le premier à avoir écrit les enfants de Sion, là, qui est le premier à avoir lancé l'idée du retour des Juifs, là. Cette idée a été exploitée par d'autres ensuite et dans un autre esprit. Mais peu importe les erreurs du passé, peu importe tous ces concepts anciens, aujourd'hui, la situation est différente. Et aujourd'hui, l'emploi du mot sioniste est un emploi d'abord inapproprié. par rapport aux Illuminati, qui sont plutôt une religion sabbatéiste, ce serait le terme le plus correct. Et ensuite, je dis, moi, j'ai cette crainte de vouloir d'utiliser des mots qui risquent de nous faire penser à des groupes plus importants. Donc, le mot sioniste, j'ai la crainte que ça nous fasse penser à l'ensemble des Juifs, et ça, c'est pas correct, c'est pas vrai. Puisque, je vous dis, parmi les Juifs, c'est comme Israël. Vos journaux n'en parlent pas, mais vous avez des manifestations monstrueuses en Israël, où les Arabes et les Juifs sont ensemble à manifester contre le gouvernement. Si on parle des sionistes, ce sont les gouvernants, les mêmes qu'en France, les mêmes qu'en Italie. C'est pas le peuple. Or, si on parle de sionisme globalement au quidam de la rue, bah, il va assimiler tout le monde et on va se retrouver avec une chasse aux sorcières. Et je ne crois pas que ce soit utile pour l'humanité maintenant.
Merci de votre réponse. Oui, c'est sûr que s'il s'agit d'éviter les pogroms et des génocides de quelque race que ce soit, effectivement, autant bien choisir ses mots. Enfin, le débat, qu'il soit sémantique ou qu'il porte directement sur le judaïsme, sionisme, on sait que c'est un débat qui déchaîne les passions, bien sûr, notamment sur Internet. Donc, la question mérite d'être posée, certes. On a entendu votre réponse. On va passer un petit peu à autre chose. Alors, je vais relayer là une nouvelle question de téléphoneur qui, dans l'hypothèse donc d'une troisième guerre mondiale, donc, que vous annoncez, notamment, y aurait-il une levée de bouclier, une union entre les pays que l'on considère comme opposés à cet ordre mondial, qui serait donc, même si ça se discute, donc l'Iran en tous les cas, le Venezuela en tous les cas aussi, et éventuellement la Russie et la Chine. Alors est-ce que ces quatre grands pays, plus ou moins grands, bien sûr plus ou moins importants, pourraient-ils s'unir dans l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale?
Là, on est dans les conjonctures. Mais bon, on est un petit peu tous dans la même situation. On analyse ce qui se passe. On sait tous que la Chine a interdit aux États-Unis, et ça a été officiel, donc déclaré par l'ambassadeur, donc c'est dans les écrits, et ça on le sait. Donc la Chine a interdit aux États-Unis, d'attaquer le Pakistan. Donc la Chine a pris une position, claire. Et sa position, c'est d'empêcher l'intervention des États-Unis jusqu'à un certain point. Je crois que l'Iran répond aux mêmes critères que le Pakistan et je ne crois pas que la Chine tolérerait que l'Iran soit attaqué. En ce qui concerne la Russie, c'est plus délicat parce qu'il y a beaucoup de tendances en Russie et oh, la vérité est que j'arrive pas à savoir réellement de quel côté ils se pencheront. La Russie est un petit peu un arbitre. Si elle se penche d'un côté, c'est bien pour ce côté-là. Si elle se penche pour l'autre, ce sera bien pour l'autre. La Russie reste une puissance énorme et on va se retrouver l'OTAN, c'est-à-dire l'Europe. Et les États-Unis contre Chine, Iran, parce que l'Iran c'est aussi une très grosse armée, il y a plus de 3 millions d'hommes, hein, et il y a du matériel. Donc, de toute façon, c'est ce qu'il faut éviter. Je crois que la seule conclusion, c'est l'éviter, et l'éviter la guerre aujourd'hui, c'est pas un pays contre un autre. La guerre aujourd'hui, c'est les peuples contre les gouvernants. C'est ça qu'il faudrait que je. S'il y a un seul message que je voudrais arriver à ce qui sorte de cette conférence et à ce que tout le monde sorte, avec ce message-là, c'est les peuples contre les gouvernements. Parce que si vous prenez un petit Pakistanais, un petit Chinois, un petit Juif, un petit Arabe, vous les mettez à jouer dans la cour, vous verrez que c'est tous des copains. Et on est tous pareils. On est des pères de famille, on a nos femmes. Mon voisin, je me fous qu'il soit noir, chinois, ou qu'il ait une religion, ou qu'il en ait une autre. On a tous envie de vivre en paix, on a tous envie d'avoir un ciel où on respire l'air normal et pas celui des chemtrails, on a tous envie de voir des poissons dans la rivière. Et la guerre, c'est nous contre les gouvernants. Et c'est pour ça que la démosophie s'oppose à tous les politiciens, les gros déjà en place ou les tout petits qui essayent de se faire un nom, on s'oppose à tous ces gens-là. Et bon, parce que c'est un mouvement de peuple. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder en mémoire. C'est pas d'être du côté des gagnants en cas de guerre mondiale, parce qu'une guerre mondiale, on sera tous perdants. Le nucléaire, les armes bactériologiques, etc., on sera tous atteints. Les seuls qui ne seront pas atteints, c'est ces gouvernants. Et ces gouvernants, ils ne seront pas atteints parce qu'avec notre pognon, depuis 40 ans, ils construisent des villes souterraines où ils seront complètement à l'abri. On pourra tous s'entretuer joyeusement pendant qu'eux, ils sont planqués. Alors, ça, c'est ce que je ne veux pas. Voilà.
Merci. Alors, avant de laisser la parole à Cocopelli qui souhaite intervenir, je voudrais simplement donner une référence, parce que par rapport au point que vous exprimez à l'instant et dont vous souhaitez que ce soit le message le plus important de la conférence, c'est-à-dire distinction radicale entre les gouvernants et les gouvernants donc qui sont corrompus et le peuple d'un autre côté qui souhaite la paix et qui souhaite des choses simples. Il y a par exemple Romain Rolland qui avait écrit et qui avait co-signé avec tout un tas d'intellectuels allemands, notamment Hermann Hesse et Bertrand Russell. Au moment de la guerre de 14, ils avaient signé la déclaration d'indépendance de l'esprit, c'est-à-dire de dire que parfois le patriotisme s'opposait aux décisions de son gouvernement, en particulier quand son gouvernement est belliciste. Donc ça, c'était une vague de ce qu'on a appelé les antifascistes, puisqu'ils ont aussi milité entre les deux guerres contre la montée des tensions. Et effectivement, parfois le patriotisme peut se résumer, mais là on le voit particulièrement quand Sarkozy décide d'attaquer la Libye, le patriotisme peut se résumer donc à comment dire, à se dégager, à se détacher des décisions du gouvernement. Donc pour relayer ce que vous venez de dire, la déclaration d'indépendance de l'esprit de 1914. Alors je laisse la parole maintenant à Cocopelli.
Oui, donc moi en fait, on m'entend déjà?
Oui.
Oui.
Moi,
Il y a
j'entends.
des petites coupures quand même, hein, Coco. Je ne sais pas si tu es en train de faire un téléchargement ou quoi, mais coupe-le si jamais tu as Emule ou un truc comme ça de brancher, parce que c'est pas terrible.
Ouais, mais de toute façon, ma connexion apparemment est pas géniale, donc on va essayer. En fait, j'aurais plein de questions, mais bon. Déjà, par exemple, des questions comme pourquoi êtes-vous encore vivant si vous avez tout découvert et qu'en plus vous faites des choses plutôt publiques sur Internet. Après, il y a des questions beaucoup plus subtiles comme mais d'ailleurs vous l'avez un peu posé, comme la question de au bout de combien de faisceaux de preuves, au bout de quel pourcentage de preuves de certitude pouvez-vous avancer des choses qui sont plutôt énormes comme les villes souterraines ou les reptiliens ou encore autre chose. Parce que, bon, évidemment,
Pardon,
votre discours, il n'est pas. Il n'est...
pardon.
Je peux continuer ou pas une
Oui,
minute?
non, c'est simplement le problème, c'est que quand quelqu'un prend la parole et pose plus d'une question, et encore plus que deux questions, ça commence à devenir problématique à gérer pour le conférencier. Là, tu en as déjà posé deux, ce qui est déjà pas mal. Alors, moi, j'ai retenu déjà pourquoi êtes-vous vivant, monsieur Fioril, c'est-à-dire pourquoi n'avez-vous pas été éliminé? Et deuxième question, si j'ai bien compris, c'était en gros, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ces choses, notamment sur des choses que l'on considère parfois comme délirantes, c'est-à-dire les reptiliens, etc. Donc ça, c'est une question à laquelle vous avez plutôt répondu tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas de preuve directe. Enfin, je vous laisse déjà répondre tout à la première question. Pourquoi êtes-vous toujours en vie, monsieur Fioril?
Alors, si vous m'en voulez pas, je vais commencer par l'autre, parce qu'en fait, moi, je n'ai absolument rien affirmé à propos des reptiliens. C'est la théorie de David Icke. C'est pas du tout la mienne. J'ai lu les livres de David Icke et je ne suis pas personnellement totalement convaincu. Loin de là. Donc, je ne nie pas non plus que ce soit possible. Je dis seulement que là, on est dans un domaine où, justement, le manque de preuves nous permet pas de trancher, ne nous permet pas de prendre vraiment une décision pour dire si la théorie est viable ou pas. En revanche, pourquoi je suis vivant, pourquoi David Icke est encore vivant, pourquoi peut-être qu'on a la chance de ne pas être aux États-Unis, parce que aux États-Unis, il y en a quand même déjà quelques-uns qui ont été assassinés. Je vais vous citer par exemple Serge Monast. Je vais vous citer William Garr, qui a dénoncé que tout le contrôle de la drogue dans le monde était géré par la CIA, transporté par les bases américaines dans le monde entier, où dans chaque pays ils ont des contacts avec les services secrets qui alimentent les partis politiques grâce à cet argent de la drogue. Pour ça, il a été suicidé de 2 balles dans la tête, dans la partie postérieure du crâne. En plus, et ça a été enregistré comme suicide. Donc des cas comme ça, je peux vous en citer par dizaines. Des scientifiques qui ont voulu parler, qui ont été assassinés également. Mais la grande majorité, c'est quand même aux États-Unis, à part Kelly, l'inspecteur Kelly en Angleterre, à part Diane, la princesse Diane. Bon, à part quelques cas en Europe, c'est surtout aux États-Unis. Maintenant, quand on arrive à un certain point d'un mouvement qui est lancé, le fait d'assassiner la personne, des fois, ça crédite encore plus le mouvement. Et c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Et puis après, bah, est-ce que demain je serai encore vivant? J'en sais rien. Toujours est-ce que je dis ce que j'ai à dire et que la peur ne peut pas nous empêcher de vivre et nous empêcher de faire ce qu'on croit juste. Donc je continue et je crois que la question, si vous la posez directement au service secret, pourquoi ils me laissent vivre? Ils auront sûrement une réponse plus appropriée que la mienne.
Merci de votre réponse. Je laisse rapidement rebondir Cocopelli.
Oui, en fait, j'avais une question un petit peu plus, enfin, une question de, à partir de quel degré de prise de conscience peut-on détecter? Parce que, bon, si, le nombre d'informations très soumises à caution que vous complot, hein,
Excuse-moi,
complot.
Cocopelli, je ne sais pas les autres. Cocopelli, s'il te plaît. Je ne sais pas les autres, mais alors moi, je comprends strictement rien à ta question, quoi. Donc, c'est pas pour te censurer, mais si tu pouvais la poser à l'écrit, vraiment, il y a les mots-clés qui sautent, donc je sais, j'arrive même pas à comprendre de quoi tu parles. Désolé, hein, mais c'est vraiment ta connexion
Est-ce
là
que je peux
qui
prendre la
commence.
parole?
Oui, bien sûr, je vous en prie.
Je crois avoir compris la question globale de cette personne qui consiste surtout à dire est-ce que mes sources sont fiables? Alors, bien entendu, le travail journalistique et la formation journalistique amènent à chercher et avoir à multiplier les contrôles de ces sources, multiplier les sources elles-mêmes, etc. Donc, c'est un travail auquel je m'attelle énormément. Il est évident qu'il y a des choses quand même assez importantes que j'affirme. Et je ne les affirme pas sans avoir tout le bagage nécessaire derrière. Sur le site de la Démosophie, je cite énormément de ces sources. Après, il y a aussi les liens à faire entre eux. Par exemple, actuellement, aux États-Unis, énormément de citoyens, quand je dis énormément, je vais citer un nombre, je vais dire entre 10 et 20 000 personnes, durant ces derniers mois, ont téléphoné à leur radio locale pour signaler des mouvements de troupes américaines, des mouvements de l'armée qui leur paraissaient étranges. Dans le même temps, la FEMA a commandé des wagons sur trois étages avec chaînes et menottes pour des transports massifs de prisonniers. Dans le même temps, ils ont rouvert, vous savez qu'aux États-Unis, ils ont déjà construit 700 camps de concentration. Ils ont réouvert ces camps de concentration il y a peu de temps, augmenté le personnel à l'intérieur et ouvert les voies ferrées qui mènent à ces camps de concentration. Alors, on peut additionner tout cela comme on le veut. Vous pouvez interpréter tout cela en disant ils ont envoyé les soldats repérer que la route était sûre, ils ouvrent les camps de concentration parce que les dirigeants souhaitent envoyer leurs enfants en vacances en toute sécurité. Ça, c'est ce que vous pouvez déduire. Moi, avec les mêmes faits, j'en déduis qu'ils se préparent quelque chose aux États-Unis, qu'en Ohio et au Wisconsin, des gens qui n'ont jamais été amis. Ni même accepter la moindre relation entre eux, aujourd'hui s'entraînent ensemble des groupes nazis avec des groupes latinos et des groupes blacks. Et ça ne s'était jamais vu. Or, des groupes comme ça achètent des armes en commun et s'entraînent ensemble à la guérilla urbaine. Si j'additionne tout ça, je me dis qu'il se passe quelque chose aux États-Unis. Les gouvernants ont très peur. Et se préparent à remplir les camps de concentration. Mais si vous préférez penser que c'est pour envoyer leurs enfants en vacances en toute sécurité, c'est aussi un autre raisonnement. On part toujours d'un certain nombre de faits, on multiplie les sources d'informations possibles. Moi, je le fais personnellement en 5 6 langues minimum. Donc sur Internet, par les livres, par les revues et par des discussions avec les gens qui cherchent les mêmes choses, où on se complète les informations. Donc voilà, moi ce sont mes sources. Après, ce sont mes déductions et je les offre. Maintenant, par exemple, comme l'exemple que je viens de vous donner, ben, je vous dis, c'est mon analyse et puis pas plus que ça.
C'est votre analyse, mais c'est déjà très bien. Donc, vous parliez à l'instant de vos sources et du fait de que vous souhaitez recouper les sources, ce qui est bien logique et ce qui est très bien. Je souhaitais vous demander ce que vous pensez de certaines personnes considérées comme des analystes, comme des gens qui ont démasqué le nouvel ordre mondial, en particulier à l'échelle française, mais pas seulement, des gens comme Pierre de Villemarais, Henri Coston, même Emmanuel Ratier, par ailleurs. Alors sur ces personnes auxquelles vous ne vous êtes pas référé jusqu'à présent, que pensez-vous de ces personnes?
Je suis un petit peu désolé, mais je ne connais aucun des noms que vous avez cités. Aucun.
Très bien, je suis un petit peu étonné. Mais enfin bon, Henri Coston, bon, c'est vrai qu'il a travaillé beaucoup sur la politique française, mais il a. Bon, là, puisqu'on parlait tout à l'heure du judaïsme et de l'éventuel lien, enfin de la polémique autour du lien entre Nouvel Ordre Mondial, judaïsme, sionisme, etc., Henri Coston et son fils spirituel Emmanuel Ratier sont des gens qui ont mis en avant, qui ont cherché à démasquer et à mettre en avant l'influence juive, notamment sur la France, et l'influence sioniste. Emmanuel Ratier a signé deux ouvrages qui devraient quand même vous intéresser. Un sur le Bnaï Brit, que vous devez connaître par contre, la grande loge et la grande oui la grande loge juive
Oui,
internationale.
c'est l'une des sectes qui appartiennent aux Illuminati.
Alors si vous pouviez nous en dire un mot, ce serait avec plaisir du Bnaï Brit, du lien et de la domination que vous affirmez par les Illuminati.
Bah, il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon qu'ils ont des sectes, je vous dis bien, dans tous les branches, dans toutes les religions, dans tous les groupes. Et ils tirent les pires éléments de ces sectes, ceux qu'ils font donc progresser tout en haut de ces sectes, qui représentent le bas de ce qu'on appelle les Illuminati. Donc ils les prennent dans les francs-maçons, ils les prennent dans les rosicruciens, ils les prennent même dans les yakuza, ils les prennent dans. Je ne me rappelle plus le nom de cette secte en Inde, qui est tellement importante pourtant. Mais bon, il y a une secte en Inde qui est dans le même style. Et ils les prennent aussi dans la Brahmanite. J'arrive jamais à prononcer ce mot. Ils les prennent aussi là-dedans. Mais si vous prenez les gens du bas de la Brahmanite, c'est les mêmes que les gens du bas des francs-maçons, c'est-à-dire des gens qui pensent rentrer dans une association de bienfaisance quasi, et sans se rendre compte que c'est un système de sélection des pires d'entre eux. Et les gens bien ne progressent jamais dans ces associations, quelles qu'elles soient. Ils en tirent quelques avantages, mais ils progressent jamais réellement dans ces associations. Par exemple, celle qui était montée à Paris, là je connais parce que ça s'est passé il y a 25 ans, à l'époque c'était Chirac qui était là-dedans. Bon, bah, ils avaient organisé avec le bas niveau de la secte, on va dire, cette fameuse histoire de faux chèques qu'on encaissait sur les banques qui étaient dans la même bande, qui étaient dans les mêmes groupes. Et en fait, ils faisaient carrément un mélange entre l'association politique et l'association franc-maçonnique. Et bon, c'est les accords entre eux, c'est des petits avantages, etc. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, c'est des petites escroqueries. Après, dès qu'on passe un échelon au-dessus, alors ceux qui vont se démarquer là-dedans, qui vont être les pires, ceux qui n'ont aucun scrupule, etc., seront ceux qui seront promus à l'échelon supérieur, et ainsi de suite. Et c'est à chaque fois le pire qui va monter pour, à la fin, représenter le type sur lequel on pourra compter. Mais ce fonctionnement est le même dans toutes les sectes, absolument toutes.
Très bien, merci pour votre réponse. Vous voyez, on arrive quand même à trouver un lien. Donc, je parlais de Ratier à l'instant. Donc, Ratier qui a écrit sur le Bnaï Brit et qui a écrit aussi un ouvrage qui devrait vous intéresser sur, qui s'appelle Au cœur du pouvoir, où il s'est intéressé au club Le Siècle. Donc, peut-être que vous pouvez nous dire un mot.
Oui, bah c'est la même chose. C'est la même chose. Vous ajoutez le Rotary Club, le Lions, vous en avez des milliers et des milliers. Ce sont des milliers d'associations de ce type qui existent, qui permettent toujours aux dominants d'avoir des réunions entre eux et d'avoir des réunions en dehors du public et en dehors des médias. Donc, vous connaissez bien ça parce que vous êtes en France. Moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté la France. Donc ces noms que vous citez, je les connais pas. Et à vrai dire, les gens qui essayent encore aujourd'hui d'associer des ethnies, des religions, des groupes au mal, tous ces gens me font peur parce qu'ils marchent complètement dans les pas du nouvel ordre mondial. Ils suscitent les haines. Moi, je voudrais qu'on arrête tout ça, je voudrais qu'on mette les pieds sur terre et qu'on se rende compte que le monde, il fonctionne pas comme ça. On n'a pas besoin qu'il fonctionne comme ça. On n'a pas besoin de haïr un groupe plus qu'un autre, ni quoi que ce soit. Et si vous retirez ces gens de ces groupes, vous les prenez comme êtres humains, ce sont des gens, point. Mari, femme, enfant, grands-parents, etc. Et si ce sont des gens sains et normalement constitués psychologiquement, ce sont nos voisins et amis. Donc, le monde de demain, on ne doit pas le construire sur la base du dualisme permanent, sur la base de rejeter des groupes ou rejeter d'autres. Le monde de demain, on doit le construire sur l'association. Je vais vous donner un exemple. Dans le gouvernement démosophique, qui est un gouvernement transitoire, donc qui représente une équipe qui va se présenter aux élections et une équipe qui va ensuite être le gouvernement jusqu'à une constitution établie par tous. Eh bien, dans cette équipe, il y a une gamine de 15 ans, il y a un monsieur de 70 ans. Il y a un PDG d'entreprise, il y a un jeune au chômage, pour parler des âges, pour parler des professions, pour parler des religions, il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des chrétiens. Il y a absolument de tout. Et sur 300 personnes, je suis content qu'il y ait de tout. Et je me fiche complètement de l'âge ou quoi. Tout le monde a des idées, tout le monde a une envie de futur. Et si je prends ce monsieur de 70 ans, il a envie que ses enfants aient une planète pour vivre, il a envie que les injustices cessent. Si je prends ce gamin de 15 ans, il va me dire la même chose exactement. Exactement. Et si je prends le juif, ou si je prends le musulman, ou si je prends le chrétien, il va encore lui aussi me dire la même chose. On veut que ça cesse les guerres, on veut que ça cesse les injustices, on veut une société saine, et c'est facile à faire. Alors pourquoi on ne le fait pas? Voilà ce que dit tout le monde. Alors nous, on a décidé, on va le faire. Et comme on va le faire, on a des débats, on les fait sur Facebook, on prend tous les sujets de la société, les uns après les autres, on les traite tous ensemble, et on arrive à ce qu'il n'y ait aucune guerre, aucune haine, et que quand on est avec des avis opposés, on parvient toujours à ce qu'ils se complètent, à ce qu'ils s'additionnent, et à ce qu'il en sort quelque chose de meilleur pour tous. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas toujours comme ça et pour tout?
Très bien,
Voilà.
merci beaucoup de votre réponse. Je vais laisser la parole de nouveau à Van Oman.
Très bien. D'abord, je voudrais relayer donc la question que Cocopelli a posée. Bon, il n'a pas pu la poser à cause de son micro. Il disait, enfin, c'était plutôt une remarque, il paraît peu probable que le complot ait les moyens de faire taire tous ceux qui l'utilisent, notamment les maçons et autres main-d'œuvre utilisés pour construire les villes souterraines. Donc, je vous laisse réagir à ça et après, moi, je voudrais revenir à une question plus politicienne.
Avez-vous appuyé sur le bon bouton, Monsieur Fioril?
Pardon, excusez-moi, encore une fois. Oui, il y a une très bonne réponse là-dessus que j'ai lue. Les termes sont tellement bien explicatifs. Par exemple, les chauffeurs de camions qui participent aux constructions de ces bases, etc., la plupart du temps, ce sont ou des gens qui sortent de prison ou des émigrés illégaux, etc. Ils s'arrangent en général pour prendre des gens qui ne peuvent pas parler et ils les payent très cher. Très, très cher. En une semaine, ils touchent ce que les autres touchent en un mois. Après, il y a quand même des témoignages, heureusement, sinon on ne saurait rien du tout. Il y a quand même des témoignages. Et si vous marquez le nom des principales bases, vous trouverez beaucoup de témoignages certains sont anonymes, certains sont des gens qui ont été haut placés, qui ont été écartés ou ils ont été obligés d'utiliser quelque temps et qui, durant ce temps, ont pu découvrir pas mal de choses, donc des scientifiques, des gens de tout type. Bon, je vous apprends rien, j'espère, en vous disant qu'il y a beaucoup d'expériences génétiques actuellement d'hybrides humains avec animaux, mais ces expériences, ça fait 20 ans qu'elles sont en cours dans ces bases pour fabriquer des hybrides homme-singe, homme-porc, homme-pieuvre, enfin, ils font des trucs complètement fous. Mais tout ça, c'est bien, je veux dire, c'est tellement confirmé. Maintenant, il y a eu des reconnaissances officielles il n'y a pas longtemps en Angleterre et en Suisse. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas niable. Ce qui est niable, c'est que ces expériences existaient déjà, qu'ils ont déjà fait les modèles, et que ça existe dans ces bases. Mais quiconque veut marquer Pin Gap, veut marquer Base Dulce, veut marquer Fort Alamo, veut marquer l'île de Malte ou la base française en Alsace, Il trouvera, s'il passe du temps, il trouvera, il le trouvera. On le trouve sur des sites russes, on le trouve sur des sites anglais, on le trouve sur des sites. On arrive petit à petit à reconstituer toutes les informations et à finalement à savoir à peu près ce qui se passe. Mais bon, moi je passe entre 15 et 18 heures par jour sur Internet. Et en plus, je lis énormément. Je lis toujours 3 à 4 livres chaque semaine, minimum.
Très bien, bah merci pour cette réponse. Donc bah maintenant ma question qui est donc nouveau plus terre à terre hein. On a reçu ici Franck Abed qui est alors très anti-république lui aussi, mais par contre qui va dans une direction très différente de la vôtre puisque lui il est pour un rétablissement de la monarchie en France. Et il pense à un monarque, un vrai monarque, hein, pas un monarque sur le type des monarchies européennes où en fait le roi n'a pas vraiment de pouvoir, puisque c'est le Premier ministre qui assure la conduite du pouvoir. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de la monarchie. Bon, a priori, je pense savoir un peu, puisque dans cette vision-là, ça serait pas le peuple qui aurait le pouvoir, ça serait le monarque. Mais en consultation tout de même avec le peuple. Est-ce que vous pensez pas que le modèle français, donc comme le pense Franck Abed, que le modèle français traditionnel, c'est quand même la monarchie, avec un roi au sommet, un roi qui tire son pouvoir bah, de Dieu, du fait qu'il est sacré, voilà quoi. Donc je vous laisse répondre là-dessus.
Mais franchement, en me posant la question, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu ridicule? On peut revenir à Babylone aussi, si vous voulez. Le
Bah, disons
roi a parlé,
que, excusez-moi,
etc.
juste pour répondre à votre remarque, personnellement, je ne suis pas croyant, mais pour un catholique, je pense que ça peut avoir du sens, puisque le roi français est forcément catholique. Voilà, c'est juste la remarque que je voulais faire. Excusez-moi de vous avoir interrompu.
Bah, écoutez, moi, j'avoue que ça me porte à sourire. On peut retourner complètement aux cavernes aussi. On peut retourner à... Un monarque, c'est un dictateur, c'est un autre mot, mais c'est la même chose. Donc, si vous avez la chance de tomber sur un Chavez, c'est un gros coup de peau. C'est pas, mais même Chavez, c'est pas l'idéal. Et il n'a pas osé prendre cette position. Donc les autres ont quand même un mot à dire aussi. Mais les retours en arrière aujourd'hui, en 2010, ça va, quoi. Je crois qu'il faut être un petit peu raisonnable, il faut un peu se servir de son cerveau. On est tous des humains. Le mot roi est totalement ridicule. Comment quelqu'un qui naît... Enfin, je sais pas, c'est un tel non-sens que là, je sais même plus quoi répondre, parce que c'est ridicule, quoi. Désolé, là, je sais pas quoi répondre. Je vois en Espagne comment ils considèrent leur roi, leur reine ici. Bon, faut pas oublier que de toute façon, le roi s'estime faire partie des lignées. Comme il fait partie des lignées, il va se remonter à Mérovée, donc la lignée mérovingienne, qui est classée dans les Illuminati comme la... Ils sont liés de toute façon aux Illuminati automatiquement. C'est ridicule, quoi. Bon, alors lui là, Rothschild en Angleterre, Rockefeller aux États-Unis, chaque lignée va s'établir son territoire et puis ils vont se faire la guerre entre eux. Et nous, on va encore servir de char à canon. Non, je crois qu'il faut admettre que le monde pense, que les humains pensent, qu'on est dans une prise de conscience totale de l'état de la planète et que ce sont justement ces gens qui ont détruit notre planète. Il faut qu'on soit conscient que ça fait plus de 40 à 50 ans qu'existent tous les moteurs à énergie libre et qu'ils sont interdits. Il faut qu'on soit conscient que demain, on peut faire de cette planète un paradis pour tous. Alors point, faisons-le. Et pour le faire, c'est nous qui devons le faire. C'est pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Donc c'est le même raisonnement que tous ces petits politiciens en ce moment qui... débarque en disant moi j'ai la solution en 3 points, moi j'ai la solution en 8 points, moi j'ai on va faire ça. Non, il y a un problème de fond, c'est la République. Ils n'ont pas compris, 99% d'entre eux n'ont même pas compris comment ça fonctionne. Donc déjà, ils sont pas compétents pour le reste. Ensuite de ça, le langage aujourd'hui à tenir, c'est pas moi j'ai des idées, vous n'en avez pas, suivez-moi. Le langage aujourd'hui à tenir, je suis persuadé, je suis convaincu que c'est celui de la démosophie qui consiste à dire Vous avez une pensée, vous avez un mode de réflexion, utilisez-le pour le bien de tous. Donc, prenons tous ensemble tous les éléments, réfléchissons tous ensemble, posons tous ensemble le résultat de nos réflexions, additionnons-le et nous aurons ce qu'il y a de mieux. Voilà le raisonnement de la démosophie. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde doit aller dans ce sens-là. Il ne doit pas revenir en arrière à l'époque des cavernes. Ça rime à rien. Voilà.
Voilà, enfin, l'époque des rois, c'était quand même pas l'époque des cavernes, mais c'est-à-dire, en même temps, vous vous attaquez énormément à la République. Bon, la République, elle a pris la place de quelque chose qui existait, qui était tout de même la monarchie. Donc, est-ce que la monarchie, c'était pire, auquel cas la République serait quand même un progrès dans votre propre raisonnement, ou est-ce que la monarchie, c'était mieux que la République? Moi, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous demander. Alors, moi, le retour en arrière, vous savez, c'est un argument qui ne me convainc pas beaucoup, parce que je sais que certains disent, oui, le jour où vous êtes malade et que vous aurez envie de revenir en arrière, c'est-à-dire au moment où vous étiez en bonne santé, vous serez peut-être pour le retour en arrière, quoi.
Alors, parler de ça, la monarchie existe toujours, elle continue à travers les Illuminati. Simplement, ils veulent se faire. Il y a aussi, ce sont des gens qui vivent. Il faut comprendre comment ils fonctionnent. Ces gens fonctionnent sur une base qui est difficilement compréhensible pour quelqu'un de normal. Mais la base essentielle de tout le fonctionnement de tous ces gens-là, c'est l'absence totale d'empathie. Ce sentiment n'existe pas, comme si c'était des humains à qui manque cette partie-là. Donc, leur mode de fonctionnement fait qu'entre eux, ils se bouffent également. Ils n'hésitent pas, il y a une quantité d'assassinats, de guéguerres, on va parler des pétroles de Bakou, comment Rockefeller a baisé Rothschild, etc. Et c'est sans arrêt la guerre entre eux, permanente aussi. Or, quand vous parlez de la République qui a pris la place de la monarchie, la République, elle a été décidée par les Illuminati. Donc, ce sont les lignées majeures, avec l'argent en quantité, qui ont voulu établir la République comme moyen de contrôler le pays. Donc, c'est une guerre entre Illuminati et rois. Mais le peuple, là-dedans, il n'a toujours rien à faire. La République, le peuple, il ne l'a jamais voulu. Robespierre, il recevait ses instructions par écrit directement d'Adam Weishaupt et de Rothschild. Il faut quand même un petit peu étudier l'histoire, voir l'histoire réelle. Or, l'histoire réelle ressemble en rien à ce qu'on nous apprend dans les bouquins. Donc, la République n'a jamais été voulue par aucun peuple. C'est une guéguerre entre ce groupe qui voulait prendre le pouvoir sur ceux qui l'avaient déjà. Mais dans cette guerre entre eux, nous, on n'a rien à voir. Or, aujourd'hui, vous avez un type qui se présente en disant je suis un descendant de roi, enfin je sais pas qui vous parlez, peu importe, mais et c'est l'un d'entre eux qui veut reprendre un petit peu sur la bande qui lui a enlevé ou qui a enlevé à son grand-père quelque chose. Mais encore une fois, nous on n'a rien à voir là-dedans. Et ça me paraît vraiment un combat d'arrière-garde, un truc complètement dépassé. Que lui essaye pour son intérêt personnel, oui, je veux bien. C'est assez logique. Mais c'est inadapté, totalement inadapté à notre époque. Et aux gens, écoutez les questions que me posent les gens, ce sont des questions sensées, ce sont des gens donc qui pensent, ce sont des gens qui réfléchissent. Si demain je leur dis ne soyez plus rien, ne pensez plus, je pense pour vous, voilà comment on va résoudre les problèmes, suivez-moi, ben j'espère qu'ils vont me dire non. J'espère qu'ils vont me dire non, comme diront non à n'importe quel politicien. J'espère qu'ils vont dire, attendez, moi je suis capable de raisonner tout seul. Donnez-moi les infos, donnez-moi les éléments, je réfléchis, et ensuite on en parle ensemble et on détermine ensemble ce qu'il y a. Et si on est au lieu de 2, 50, c'est encore mieux, parce qu'on va tout additionner. Et si on est encore plus nombreux, encore meilleur. C'est pour ça que dans le gouvernement démosophique, on n'a pas du tout fixé de limite. On a dit qu'il serait bien d'avoir une équipe, grosso modo, de 300 personnes. Mais si on est 500, ce sera très bien, ce sera encore mieux. Et le concept lui-même sera de prendre le pouvoir pour établir une constitution qui sera en ligne, sur laquelle participeront non plus 500 personnes, mais 50 millions. Et qui s'additionneront et on fera quelque chose d'encore mieux. C'est le même concept avec lequel on a créé le concept démosophique, c'est-à-dire le gouvernement démosophique, tel qu'il est. Au départ, c'est une idée originale, on va dire, de moi tout seul, peut-être, il y a 25 ans. Mais amélioré par des milliers de libres penseurs qui m'ont ajouté leurs idées, etc., jusqu'à ce que je sorte le livre en 2009 ou 2010, dans lequel tout le concept exposé est le résultat de centaines de milliers de libres penseurs, c'est-à-dire des gens qui ont ce qu'on définit par la libre pensée, des gens qui se sont débarrassés de tous les concepts enseignés à l'école, de tous les conditionnements, de tout cela, pour essayer de penser simplement librement comme un être humain sur la planète, en train de penser quelle est la meilleure façon de nous organiser pour vivre ensemble en paix et de façon agréable. Quelle est la meilleure façon? Et on a abouti à un système qui n'a rien à voir avec la République. Et donc, on l'expose dans ce livre en disant, maintenant, ajoutez encore vos idées pour qu'on l'améliore encore. Et ça, c'est ce qu'est la démosophie. Voilà.
Merci de votre réponse qui appelle sans doute tout un tas de commentaires chez la plupart des auditeurs. Alors évidemment, là, on ne peut pas donner la parole à tous. En tout cas, effectivement, moi, je me suis posé la question de savoir quelles étaient vos croyances religieuses. Peut-être que vous souhaitez répondre à cette question. Enfin, je me permets de terminer mon explication, puisque effectivement, j'ai vu que vous récusiez la République très sévèrement. Non seulement semble-t-il les républiques en tant qu'elles existent, mais le principe des républiques, si j'ai bien compris. Et d'autre part, vous insistez beaucoup sur ce principe de sabbatéisme, sur cette secte qui donc serait aux racines des Illuminati et qui influencerait les sectes et organisations mondiales. Donc je me suis posé la question effectivement de savoir que j'ai estimé que vous attribuez en fait aux religions, notamment aux religions du livre, mais sans doute aux autres, une sorte de pureté originelle que viendrait en réalité pervertir l'adoration de Satan à travers le sabbatéisme et donc la situation actuelle qui ne serait que la conséquence de ce sabbatéisme. Donc moi-même, je me suis dit, bon, quelqu'un qui est contre la République, qui semble pro-religieux, du moins se revendiquer d'une authenticité des Écritures, je me suis dit effectivement que peut-être que vous étiez catholique. Fervent, pratiquant, et que vous souhaitiez, comme beaucoup de catholiques que l'on qualifie d'intégristes, on sait que ça veut rien dire, hein, bon, souhaitez tout simplement le retour de la monarchie, c'est-à-dire l'union dans le corps qui est sur le modèle du corps christique, l'union autour du roi qui sur la terre représente Dieu et Jésus. Bon, alors très bien, peut-être que l'on peut connaître
Je peux
vos opinions
répondre?
religieuses si vous en avez.
Oui, tout à fait. Alors, justement, j'ai dû très très mal m'exprimer parce que je n'ai pas du tout, du tout, du tout la religion du livre et j'ai pas du tout de croyance dans ce domaine-là. Ma religion, je l'explose clairement dans le livre. Ma religion personnelle est une religion cosmique. Donc, la religion cosmique, c'est une religion exclusivement individuelle, discrète. Qui me regarde moi quand je me couche le soir après 9 h. Donc, pour moi, le concept religieux est un concept individuel, est un concept où chacun a le droit de croire ce qu'il veut et pas chercher à convaincre qui que ce soit d'autre. L'importance de la religion réelle, c'est, et c'est là-dessus qu'ils ont fait tant de fric, le Vatican, etc., et c'est là-dessus qu'ils ont abusé les gens, mais la réalité de la. C'est simplement être rassuré sur notre existence sur Terre. Pourquoi on est là et qu'est-ce qui va nous arriver après mourir? Et ça se résume à ça, ça ne va pas plus loin. Donc, toute religion basée là-dessus exploite les peurs, les craintes, en offrant des interprétations, quelles qu'elles soient, qui vont rassurer les gens, les tranquilliser, leur donner une ligne de conduite, etc. Aujourd'hui, de moins en moins de gens ont besoin de ça, parce que de plus en plus de gens réfléchissent, choisissent à leur gré ce qui leur convient. Donc il y a des catholiques qui veulent penser que, je ne sais pas, les catholiques croient que c'est la Vierge, le Saint-Esprit et le petit Jésus. Bon, chacun a son droit, chacun pense comme il le veut, et pourvu qu'il laisse le voisin en faire autant. Lui, il a son droit à penser comme il le souhaite, donc il doit respecter le même droit chez le voisin. Voilà ma religion. Et je crois que j'ai jamais parlé. Bon, j'aime beaucoup Jean Bottero par sa façon d'expliquer les choses, par ses analyses de la Bible à travers les écrits assyriens et sumériens. C'est intéressant sur le plan archéologique, sur le plan historique, et ça m'intéresse. Après, au niveau de la croyance personnelle, ben, je crois que ça doit rester personnel. Donc chacun sa croyance personnelle. Moi, je ne vois jamais un être humain autrement que comme une personne, et une personne avec ses pensées, avec ses craintes, avec sa façon d'appréhender la mort et ce qu'il y aura après. Et je respecte la sienne et j'ai pas besoin qu'il m'en parle comme j'ai pas besoin de lui parler de la mienne. Mais puis si on en parle, on en parle, mais comme de nos croyances, point, sans chercher à se convaincre. Voilà ma religion.
Je vous remercie de votre réponse et je vais laisser la parole à Evangelos s'il souhaite toujours poser une question.
Oui, alors bonsoir. En fait, j'ai une question parce que tout à l'heure, vous avez parlé du glissement de sens au niveau du mot goy. Et c'est un truc qui m'intéresse parce qu'en fait, en France, on a une problématique, si vous voulez, c'est que dans la résistance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui deviennent suffisamment connus pour qu'on ne puisse plus les abattre. Et on leur envoie, par exemple, une ligue de défense juive qui devrait peut-être plus s'appeler ligue de défense sioniste. Et du coup, ces gens-là ont un gros taux d'écoute et en plus ils sont amenés à faire face à des menaces verbales, physiques, etc., qui les poussent à avoir une critique sur le judaïsme et le sionisme très poussée. Et en plus, de plus en plus d'intervenants font des conférences sur un des deux piliers de la fixe mondiale qui est le judaïsme. Du coup, on se retrouve dans la résistance avec énormément de gens comment dire, qui vrille en fait non pas sur une réconciliation, mais qui tombe dans le problème de. Ils refont un décalage vers le dualisme, le conflit, et tombe dans le piège en fait de l'antisémitisme. Donc est-ce que vous avez quelque chose en fait qui permettrait de dynamiter un peu ce genre de choses? Est-ce qu'il y a un endroit où attaquer, etc., pour éviter justement de perdre des gens qui retombent dans un conflit
Écoutez, je crois que quiconque veut bien un petit peu étudier l'histoire, il va se rendre compte qu'il se trompe complètement, parce que on voit quelques juifs qui font partie de la haute finance. Maintenant, ce qu'on ne voit pas, c'est pourquoi et comment. Alors, il faut quand même remonter à l'époque où, quand le gamin français n'apprenait ni à lire ni à écrire, partait travailler au champ à 12 ou 13 ans. Pendant ce temps-là, le gamin juif, il apprenait le français, il apprenait en plus l'hébreu à travers l'étude du Talmud. Et donc ces gens-là avaient, à travers la religion, créé une obligation d'étude. L'obligation d'étude, quoi qu'on dise, développe l'esprit. Ensuite, quand vous ajoutez à ça des lois qui interdisent aux Juifs de travailler la terre, de travailler l'artisanat, etc., et que leur seul droit, c'est de manipuler l'argent, alors vous avez tout créé. Vous avez créé des gens qui ont le niveau d'études et des gens qui n'ont pas le droit de faire autre chose. Forcément, vous créez les meilleurs spécialistes dans le domaine. Donc après, il ne faut pas vous étonner que ces gens-là, au cours des siècles, lorsque la navigation a permis les multiples échanges, etc., ben c'est eux qui finançaient la navigation, qui a rapporté à travers l'esclavage, à travers la conquête, etc., des sommes faramineuses, dont forcément ils ont récupéré la plus grosse pie. Mais c'est l'histoire qui a créé la situation. Maintenant, si vous prenez d'autres pays dans lesquels les lois n'étaient pas les mêmes, alors là, les Juifs n'ont pas du tout progressé dans ce domaine. Et étaient les meilleurs paysans, par exemple, en Russie. Et c'était les paysans qui obtenaient. C'était de très bons paysans, parce que c'était surtout leur domaine. Donc, encore une fois, cherchez les Juifs actuellement des fortunes, vous les trouverez à 99% originaires essentiellement d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, de ces régions-là. Après, vous prenez la famille Rockefeller, par exemple, bah, ils ne viennent pas de là. Vous prenez la famille Lee, elle ne vient pas de là non plus. Et d'autres familles ne sont pas ni juifs, ni n'ont fait leur fortune sur cette base-là. Donc c'est faux, c'est complètement faux. Et le peu de vrai qu'il y a, ben, ce sont des gens qui étaient à un moment donné, dans une situation donnée, ce qui a donné les résultats qu'on a aujourd'hui. On est quand même le résultat de 5000 ans de civilisation qu'on a vécu, avec forcément des ethnies qui se sont plus orientées dans un domaine et d'autres dans d'autres. Il y a d'autres ethnies qui sont devenues des spécialistes dans certains domaines. Vous avez des groupes d'Indiens, par exemple, aux États-Unis, qui sont les seuls capables de marcher à 300 ou 400 mètres de hauteur sur des poutres de 10 cm et qui n'ont ni vertige, ni la moindre crainte et dont jamais un seul n'est tombé. Ils ont développé une particularité spéciale dans un domaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que si on fait une recherche historique et mélanger la partie ethnologique avec la partie anthropologique, on trouvera les raisons. Et ces raisons, on en a les conséquences aujourd'hui. Mais avant tout, ce sont des gens et point. Et parmi les gens riches, vous avez des gens riches qui ont gagné des fortunes de la manière la plus honnête qui soit. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui naissent avec un bagage de fortune monstrueux, ils n'en sont pas responsables. Mais vous ne pouvez pas lui demander non plus de le foutre en l'air. Donc ils font avec. Après, comment ils tournent, bah, comment ils seront éduqués, dans quelle société ils sont évolués, tout ça. C'est ça qui va déterminer la suite. Ce n'est pas la naissance, c'est l'éducation. Donc l'essentiel, c'est de créer une société dans laquelle l'éducation sera équitable, ce qui n'est pas normal actuellement. C'est que dans le plan du Club Bilderberg, ils aient donné l'ordre à tous les ministres d'éducation de faire en sorte de baisser complètement le niveau pour que l'ensemble du niveau de la population soit le plus bas possible. Moi, je me suis amusé sur un dernier ouvrage là, que j'ai écrit avec les indignés à mettre deux petits problèmes. Ces problèmes sont des problèmes qu'on donnait aux enfants de 10 à 12 ans en 1910 et 1915 en France. Donc, ce sont des problèmes tout simples que les gamins résolvaient entre 5 et 8 minutes. Ces problèmes-là, je les donne aujourd'hui à des gamins de terminale. Il n'y en a pas un qui le résout en moins d'une demi-heure. Donc la question, c'est là qu'il faut se la poser. Et le vrai problème, c'est comment ce Club Bilderberg, ce groupe, a réussi à corrompre tous les présidents, tous les ministres de nos pays, etc., et instaurer ces systèmes d'éducation. On pourrait parler aussi comment ils ont réussi à corrompre nos services médicaux à ce point-là, au point que ce sont eux qui contrôlent les facultés, les études, etc., et qui sortent des médecins qui sont des vendeurs de leurs médicaments. Et qui cherchent plus du tout à soigner les gens. Comment ils ont réussi à corrompre totalement notre société? Et là, il faut se réveiller, en prendre conscience, analyser le problème et encore une fois s'unir, échanger les choses. Voilà.
Merci de cette réponse, donc qui a permis d'embrasser pas mal de sujets. Là, on touche à une des questions liées au nouvel ordre mondial, enfin pas seulement liées au nouvel ordre mondial, enfin mais que l'on peut percevoir tous, hein, si nous avons un minimum de jugement, c'est effectivement l'abrutissement des masses, l'lobotomisation des masses. Bon, donc vous êtes exprimé là-dessus.
Si vous voulez, je peux ajouter autre chose sur ce sujet.
Oui, je vous en prie.
Sur ce sujet, je vais vous ajouter autre chose parce que ça va être une vidéo que je vais faire bientôt. Moi, je travaille dans le domaine médical, hein. Donc, je connais un petit peu ce sujet. Et il y a une découverte qu'ils ont faite qui est assez extraordinaire. Ils ont découvert que deux maladies qui n'avaient rien à voir ensemble pouvaient se guérir. Ça, c'était au début du siècle dernier. Ils ont découvert que les gens qui avaient été atteints de malaria n'attrapaient pas la syphilis. Alors, c'est une découverte un petit peu étrange, mais en tous les cas, ils l'ont constaté, vérifié, etc. Et à partir de là, ils ont découvert autre chose. Ils ont découvert que si on abaisse le système immunologique des gens, ils sont aptes à recevoir tous les types de maladies. Et pour abaisser le système immunologique, on les charge de métaux. Or, une autre découverte qui a été faite pendant la dernière guerre, entre les études qu'a fait Hitler et les études, enfin Mengele et toute la bande, et les études qu'ont fait les Japonais sur le bras, ils ont découvert que les prisonniers, on les maintenait tranquilles avec certains produits. Parmi ceux-là, ils ont découvert le fluor, l'aluminium, le lithium. Donc, dans les années 50, ils ont commencé à faire des fausses études pour présenter le fluor comme utile pour la santé. Il y avait un double avantage. Premièrement, ça permettait que leurs usines qui produisaient ce déchet, ils devaient payer pour se défaire de ces déchets. Donc, au lieu de payer, maintenant, ils le vendaient. Et le deuxième avantage, c'est que ça baisse le niveau d'intelligence générale de la population. Ça baisse la capacité de réaction et de volonté. À ça, il faut ajouter des métaux. Alors, ils ont orienté la fabrication des vaccins et multiplié les vaccins imposés aux enfants de telle manière qu'on les charge de métaux. Et ces métaux, ajoutés au fluor, provoquent une baisse des capacités intellectuelles. Et si vous ajoutez à ça un niveau d'éducation scolaire désastreux, ben vous avez le résultat que vous avez maintenant. Et ils vont dans cette voie et maintenant ils remettent une couche avec les chemtrails, qui est des doses massives d'aluminium qu'on respire maintenant tous les jours. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.
Très bien, alors un tout petit commentaire, puisqu'on avait reçu Cyril Cosins sur l'endocrinopsychologie. L'endocrinopsychologie confirme tout à fait ça, c'est-à-dire par l'inoculation de vaccins et par les conditions de vie actuelles et par les soi-disant médicaments qui prétendent nous soigner. Effectivement, il y a une baisse immunologique et une baisse de la glande génitale interstitielle par hypertrophie de la glande génitale reproductrice. Donc, on peut l'interpréter à tous les niveaux selon plusieurs branches scientifiques, mais des branches scientifiques à chaque fois qui ne sont pas reconnues. Et effectivement, on pourrait en parler aussi, mais des grands scientifiques dont on garde les connaissances sous le boisseau, donc le docteur Ernez, Carrel, etc. Bon, à pas revenir là-dessus. En tout cas, vous avez répondu, c'est très bien. Un des derniers thèmes que j'aimerais qu'on aborde ce soir, c'est la question de l'enracinement, on pourrait l'appeler comme ça, ou on peut le prendre par l'autre côté, c'est-à-dire la question du métissage, et le fait notamment, selon Pierre Hilar, qui est quand même un bon spécialiste dans le domaine, que les autorités, les dirigeants mondialistes du nouvel ordre mondial souhaitent absolument que tout se mélange, que toutes les ethnies, races, peuples se mélangent et ne forment plus qu'une sorte de magma. Alors, croyez-vous à l'idée de peuple, puisque vous parlez de la sagesse des peuples, et en quoi la dimension, on va dire, ethnique et puis aussi traditionnelle peut jouer un rôle dans ce monde que vous souhaitez construire?
Alors, moi j'ai un concept un petit peu opposé au mondialisme. J'ai un concept qui est le suivant. Je suis tout à fait partisan de laisser les civilisations évoluer à leur rythme. Ça veut dire que il y a du bien. Les coutumes qui existent dans un peuple, dans une ethnie, sont le résultat de sa situation géographique, des produits accessibles, etc. Donc, moi, j'aime quand je vais en Allemagne manger une choucroute ou en Alsace, j'aime manger une fondue savoyarde quand je vais en Savoie, j'aime manger des crêpes quand je vais en Bretagne et boire du cidre. Et dans le monde entier, et dans chaque pays du monde, il y a ainsi une multitude d'ethnies, de cultures, etc. Et je crois qu'il faut aller absolument contre la mondialisation, il faut respecter les cultures. Et il y a une richesse fabuleuse dans toutes ces cultures. Et c'est un bonheur en plus. Moi, si je vais en Chine demain ou en Russie, c'est pas pour retrouver un McDonald's. Ça me dit rien. Je suis désolé. Je préfère découvrir le pays tel qu'il est. Donc, je crois qu'il faut respecter ça. Il faut respecter les cultures individuelles, les petits peuples. Il faut respecter. Et donc, je suis complètement opposé à la mondialisation. Après, le mélange des races, il va se faire naturellement. De toute façon, on ne pourra pas empêcher qu'un garçon lui plaît une fille. Et si la fille, elle n'est pas de sa couleur, ou de cheveux, ou d'yeux, ou de peau, ou de ce que vous voulez, si elle lui plaît, elle lui plaît, puis point. Et ça, on ne va pas commencer à faire des divisions. Donc je crois qu'il faut enlever les divisions terrestres, les fausses, celles qu'on a établies, telles que les frontières, etc. Et qu'il faut laisser la nature faire les choses. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où la communication est facile, où le Basque a envie de quitter son pays basque et d'aller visiter le Japon, et puis c'est peut-être là qu'il va trouver une fille qui lui plaît, etc. Donc ça, il faut laisser la nature faire les choses. Et avec les siècles qui viennent, évidemment, il est probable que les races vont se mélanger, mais il est aussi probable que les cultures vont se maintenir, à condition qu'on n'essaye pas de mettre des McDonald's partout. Voilà mon point de vue sur la chose.
Très bien, écoutez, un point de vue intéressant. Alors, Evangelos souhaitait reprendre la parole si je ne m'abuse.
Oui, alors tout à l'heure vous avez fait une critique historique sur un petit peu le modèle qui est un goulot d'étranglement en termes de domination, que ce soit au niveau du profil, on va dire, en termes d'âge, de sexe, etc., qui est un modèle dominant donc dans les royautés, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que on est passé de roi à des militaires. En ce moment, on est en transition entre des militaires qui dirigent les États à des avocats. Donc, la plupart du temps, ben, les avocats qui sont mis en place plaident pour les intérêts d'oligarchie, etc. Et quelques-uns essayent de plaider pour le peuple, mais ils n'y arrivent pas. Est-ce que vous pensez donc, vu que les gens qui passent au pouvoir ils sont placés par le groupe Bilderberg, est-ce que vous pensez que l'ère des avocats comme président va durer encore longtemps et qu'est-ce qu'ils peuvent éventuellement nous réserver pour le futur, des stars du showbiz, etc.
En fait, les avocats, ce sont les beaux parleurs. Je crois que dans la langue française, on les appelle les bavards. Je crois qu'il y a encore d'autres termes qui expriment la même chose. Mais globalement, ces gens sont les mêmes qui sortent des écoles de la magistrature ou pas. Vous avez dans les politiciens autre chose que des avocats, vous avez beaucoup, mais vous avez aussi autre chose. Ce sont des études typiques, parce que ce sont des études qui ne demandent pas d'intelligence, ça demande de la mémoire. Or, ce sont aussi des études où il est facile pour le cancre de la famille de le placer dans les écoles qu'il faut et à ce moment-là d'obtenir les diplômes dans n'importe quelle circonstance. S'il ne sait pas parler, on le mettra à la tête d'une grande entreprise où, là où il pourra faciliter les avantages discrets. S'il sait parler, alors ça fera un bon politicien. Si en plus on le fait passer par les sectes, il sera corrompu comme il le faut, et là il sera complètement aux ordres. Donc tout ce système doit disparaître complètement. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est un système en place depuis très longtemps, et il est temps que les peuples s'éveillent maintenant. Et si on parle ce soir de cette façon, c'est justement parce que les gens s'éveillent. Donc il faut complètement changer les choses, on en est conscient. Comment le faire? La démosophie est une proposition qui va contre toutes les autres, qui va à l'opposé de toutes les propositions, parce que c'est la seule où on va dire que je suis le meneur, et je suis un meneur qui est en dehors du mouvement, pour garantir son intégrité, pour garantir que je n'ai personnellement aucune ambition. Pour garantir que, et demain je ferai la même chose dans n'importe quel autre pays, parce que je veux bien être le meneur sous cette forme de vidéos, de conférences, de choses comme ça, et d'appuyer les gens de la démosophie. Mais je veux absolument que les gens de la démosophie soient vous, soient ceux qui nous écoutent, soient la plus grande variété possible, et respectent le concept démosophique de gouvernement, qui est un concept qui interdira toute forme de corruption. Et c'est probablement pour ça qu'on aura énormément de bâtons dans les roues, parce que dans ce concept-là, il ne peut plus y avoir aucune influence, ni de secte, ni de groupe, ni de rien. Le système lui-même, tel qu'il est conçu, interdit toute possibilité. Même s'il y avait volonté, ça n'est pas possible. Donc, le concept va énormément déranger. Mais s'il passe, quel bonheur pour l'ensemble du pays. Voilà.
De ce que vous venez de dire aurait pu constituer un mot de conclusion. En tout cas, avant d'en terminer, j'aimerais relayer une dernière question. Une question de Cocopelli qui demande si vous connaissez et si vous vous intéressez à Régis Debray, à son ouvrage L'éloge des frontières, ou peut-être plus largement, si je transforme un peu la question, mais à des penseurs qui réfléchissent sur l'obscurantisme et qui donc mettent en avant les aspects bénéfiques des frontières.
En toute logique, les frontières doivent disparaître à terme, parce que les peuples n'ont pas de raison d'avoir des frontières. Nous sommes tous des humains avec un droit d'aller n'importe où sur la planète. Pourquoi est-ce qu'on m'interdirait de franchir une ligne imaginaire qu'ont créée des gens au-dessus de moi? Et pourquoi il y aurait des gens au-dessus de moi? Si vous voulez bien raisonner comme ça, si vous voulez bien raisonner en tant qu'être humain qui naît sur cette planète, pourquoi est-ce qu'il a moins de droits que les autres? Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où il ne pourrait pas aller? Donc, dans la logique, dans le futur, peu à peu, les frontières vont s'estomper et disparaître. Les peuples vont s'unir et s'unir en respectant des frontières qui seront culturelles, qui seront géographiques, naturelles, mais pas des frontières faites pour qu'un type se dise, ça c'est mon peuple, c'est-à-dire mon troupeau de moutons, et c'est moi qui l'exploite. Ça c'est le concept actuel et il doit disparaître.
Excusez-moi si je peux juste me permettre. Je constate quand même que c'est exactement ce que nous disent toutes les élites médiatisées. C'est ce que pense Bernard-Henri Lévy, c'est ce que pense Jacques Attali, c'est ce que pensent beaucoup de mondialistes. Est-ce que c'est pas un petit indice que c'est peut-être pas tout à fait la bonne solution?
Écoutez, si ces gens pensent comme ça, j'en sais rien. Mais de toute façon, je crois que c'est une évidence qu'on ne peut pas nier. On a besoin au niveau de la planète et là j'emploie le terme malheureusement le même, je suis désolé, mais dans le bon sens, on a besoin d'un ordre mondial. Je veux dire par là que quand on crée une civilisation dans laquelle on peut faire quelque chose en France qui a des répercussions sur l'autre côté de la planète, il est normal que tous les peuples aient un pouvoir d'empêcher ça. Donc la frontière en tant que concept actuel tel que je l'ai écrit avant doit disparaître et elle disparaîtra. Dans combien de temps, j'en sais rien. Mais je crois aussi, encore une fois, qu'il faut laisser les choses se faire, les peuples évoluer à leur vitesse, etc. Si demain, on enlève la frontière avec la Belgique et qu'on propose aux Belges, on abandonne les frontières, à quoi elles nous servent? En quoi elles nous est utile? Qu'est-ce qu'elles nous apportent de plus? Moi, franchement, si je suis un Français qui habite juste au bord de la frontière, je me fous de la frontière ou qu'il n'y ait pas de frontière. Je veux pouvoir marcher librement là sans qu'il y ait un flic qui m'arrête au passage en me disant « Pourquoi vous allez là ?» Donc, si on raisonne sur un schéma très humain, les frontières vont naturellement disparaître. Maintenant, qu'il y ait des gens du nouvel ordre mondial, parce que les noms que vous m'avez cités en sont assez typiques, qui disent ça, à mon avis, ils ne le disent pas dans le même sens. Ils le disent plus dans le sens d'appuyer l'idée d'une dictature mondiale. Et ça, ce n'est pas ce que je veux. La dictature mondiale, c'est justement l'opposé de ce que je veux. Donc, mais qu'il y ait une organisation au niveau mondial de la science pour que si une invention est découverte et profitable, elle profite à toute l'humanité en même temps, ça je suis pour. Si on a une organisation mondiale qui nous permet d'éviter des guerres, je suis pour. Qui permet d'éviter qu'une bombe nucléaire explose quelque part, je suis pour. Mais ça c'est un véritable ordre mondial. Et ça n'a rien à voir avec une dictature mondiale. Parce que si on avait employé le terme correctement dès le départ, eux emploient le terme « nouvel ordre mondial » pour sous-entendre « dictature mondiale » la leur. Eux-mêmes se décrivent comme l'élite. Or, s'ils se décrivent comme l'élite, c'est exclusivement parce qu'ils estiment la seule valeur qui est celle de l'argent, qui est en réalité leur seule valeur. Si vous leur enlevez ça, intellectuellement, malheureusement, la plupart d'entre eux ils vont pas très loin. Vous m'avez cité des noms là dont je ne veux pas épiloguer, mais enfin, des gens pas spécialement clairs, ni dont l'intégrité intellectuelle n'est pas forcément le top comme modèle à offrir. Voilà.
Très bien, alors nous arrivons à environ 2h10 de conférence, donc j'aimerais simplement que vous nous disiez un mot en conclusion, quelque chose que vous auriez aimé ajouter, que vous n'avez pas pu faire, ou éventuellement un ajout. Et voilà, autrement, nous allons clore la conférence donc avec ce mot final. Merci à vous. Alors, le bouton, est-ce que c'est sur le bon bouton que vous appuyez pour...
Ah, pardon, j'appuyais pas sur le bon. Donc, merci à gens qui ont participé, à tous ces gens qui ont posé des questions, et surtout qu'il en sorte le message essentiel, à savoir que aujourd'hui c'est vraiment le moment où il faut que les choses changent, où il faut qu'on prenne le contrôle sur la planète, où il faut qu'on réassainisse notre monde. Et la démosophie a les portes ouvertes à tous ceux qui souhaitent le faire et à tous ceux qui veulent penser par eux-mêmes, bienvenue. Et maintenant, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables et qui préfèrent suivre des politiciens, tant pis. Je trouve ça désolant, mais sinon, à tous les autres, bienvenue dans la démosophie. Voilà, je termine là-dessus. Bonsoir.
Très bien, c'était la conférence d'Éric Fioril que nous remercions, bien sûr. Nous remercions aussi tous les auditeurs et toutes les personnes qui écouteront cette vidéo sur Internet. Donc, bonsoir à tous.